なら。
うん。
水木。
お。じゃああれは？
松。
正解。Bonjour François.
Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 69 de La Gêne Occasionnée. La critique va-t-elle couler de source ?
Mmh. Ouais, ouais, tout à fait. Il y a une source dans le film dont on va parler.
Il y a une source, ouais.
D'où l'expression.
Est-ce que t'es prêt à montrer de quelle bois tu te chauffes ?
Ouais, il y a du bois, d'accord, ouais, ouais. Il y a de la neige aussi ? Ouais. Non, t'as rien sur la neige ?
Ouais, mais la neige, elle se transforme en eau.
Ouais, donc t'es plus sur l'eau. Mmh. Oui, on est à quel moment d'ailleurs ? On est plutôt au moins un peu du dégel finalement dans ce film. Hein.
Fin de l'hiver, début du printemps.
Ouais, je dirais ça
je
aussi.
Je crois qu'il l'a bien fait exprès.
Bien vu.
En tout cas, c'est la troisième fois dans La Gêne qu'on parle une deuxième fois d'un réalisateur.
Ouais, il rentre dans le cercle fermé de ceux dont on parle deux fois. Il y a eu quoi ? Paul Thomas ?
Paul Thomas, Sophie Le Tourneur.
Ouais.
Et voilà.
Et Hamaguchi.
Hamaguchi.
Qui sont peut-être trois des plus grands cinéastes vivants.
Mmh.
Vivantes.
Peut-être.
Oui, en fait. Tu vois, il y a une espèce de logique quand même.
Mmh. Mmh. Allez, on démarre la critique du dixième long-métrage du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi. Dans un village de montagne, une communauté voit sa tranquillité troublée par l'installation près de chez eux d'un site de camping chic. Ce qui inquiète les villageois, ce sont les conséquences écologiques d'un projet précipité par une logique de rentabilité. Après avoir tourné majoritairement en milieu urbain, Hamaguchi met au centre de son film une forêt où la temporalité et l'acoustique des montagnes s'opposent à celle des villes.
Oui, il y a une opposition qui est au cœur de ce film, qui a comme ça une espèce d'apparence un peu binaire.
Oui.
Maintenant, est-il aussi binaire qu'il en a l'air ? Ce sera donc la question du jour. Moi, devant le film, je ne sais pas si c'est le meilleur Hamaguchi. Je n'ai pas de réponse tranchée là-dessus. Ça dépend des jours. Des fois, je me dis que c'est le meilleur. Des fois, je me dis que c'est un des meilleurs.
Parce qu'il t'a quoi en tête ?
Bah, ouais. Drive My Car, c'était pas rien. Ouais. Et puis le dernier en date, tu sais, qui était divisé
compte,
en trois
comptes. Hasard.
Compte, ouais. Ouais. Pour moi, là, il est assez fort, les trois. Non, mais par contre, je me suis dit d'évidence en voyant Le mal n'existe pas qu'Hamaguchi était un grand. Ça y est, maintenant on est sûr. Il plane au-dessus du lot, là, vraiment. Bon. Et je pense que c'est, comme tous les grands, c'est un formaliste. C'est quelqu'un qui pourrait, pour moi, être d'ailleurs le synonyme d'artiste, tout simplement. C'est quelqu'un qui en passe par la forme. C'est-à-dire que les processus de signification chez lui, puisqu'un art signifie toujours un peu, il envoie des signes, simplement c'est des signes qui vont passer par le travail formel. Alors, sachant que la forme, c'est à peu près tout, hein. Pour moi, la forme, c'est la matérialité d'une œuvre. Bon, et un premier élément formel, c'est la construction générale d'une œuvre. Et là, on a affaire à une œuvre extrêmement construite, dont la construction même signifie. Alors, par exemple, il me semble que c'est pas outré de dire que le film est assez strictement divisé en trois parties. Bon, c'est pas les fameuses trois parties des scénarios tels qu'on les apprend dans des ateliers de scénarios, hein, faut tout faire en trois parties. Non, là c'est trois parties d'une autre trempe, d'un autre ordre, mais elles y sont. Je dirais que la première, elle embrasse en gros une journée, peut-être une demi-journée plus soirée.
Mmh, avant la réunion.
Voilà, et on suit essentiellement Takumi, voilà, qui déambule un peu dans l'espace de ce village, au sens large du terme, hein, c'est le village et les alentours du village. Et cette partie, pour moi, se termine avec la nuit. La nuit arrive un moment, il y a eu un repas, un dîner, ils se quittent, on voit des voitures partir dans le noir. Après, on a quelques images dont on va comprendre que c'est sans doute des projections oniriques de la petite qu'on retrouve dormant. Mmh. Et puis son père l'aborde ou quelque chose de cet ordre-là, et c'est la fin. Et là commence la deuxième partie, et qui se distinguera de la première de façon très radicale par le fait qu'on y parle beaucoup. Alors que dans la première, on aura beaucoup déambulé, mais de façon extrêmement taiseuse.
Oui.
Dans la deuxième partie, on a trois blocs qui sont des blocs de parole. Donc la réunion, qui a lieu donc le lendemain, la fameuse réunion.
La réunion en présentation du projet Glamping.
Voilà, Glamping comme camping glamour.
Oui.
Et puis après, nous aurons un deuxième bloc de parole à Tokyo,
avec
au siège, enfin du coup, dans le lieu de la boîte qui s'appelle Playmode.
Oui, l'agence artistique, au siège de l'agence artistique, voilà, avec la vidéoconférence.
Voilà, qui prend en charge donc l'implantation de ce camp de glamping dans l'espace du village. Puis un troisième moment de parole qui sera la voiture, puisque deux des employés de Playmode ont été délégués pour retourner au village pour convaincre Takumi, qu'on va appeler le héros, d'essayer de trouver un compromis. Ça, c'est vraiment la deuxième partie, vraiment, et elle se termine, je dirais, au moment où les deux en question arrivent chez Takumi.
Avec la bouteille.
Avec la bouteille pour, voilà, on a amené une bouteille de vin, comme ça, pour acheter un tout petit peu, c'est de la corruption pratiquement, enfin, on y reviendra. Et alors commence à ce moment-là la troisième partie qui reste jusqu'au bout, et qui est, strictement, une redite de la première. C'est-à-dire qu'on repasse exactement par les mêmes lieux et à peu près dans le même ordre. C'est comme si on refaisait le film qu'on avait fait en première partie. C'est le même parcours. On commence avec, dans la maison de Takumi, enfin à l'extérieur de la maison de Takumi, il est en train de couper du bois et il va y avoir une séance de nouveau de coupage de bois à laquelle va se joindre d'ailleurs un des deux employés.
Takahashi, il s'appelle.
Voilà, Takahashi. Ok, je vais essayer de retenir. C'est compliqué, toujours un peu.
Et sa collègue, c'est Mayuzumi.
Enfin, t'es fort. Toi, t'es fort en prénom japonais. Alors que moi, je comprends pas pourquoi ce peuple qui est quand même extraordinaire, pour lequel on a beaucoup de respect, pourquoi ils font pas l'effort de s'appeler Pierre, Paul, Bernard. Enfin, je ne comprends pas. C'est la seule réserve que j'aurais sur ce grand pays. Bon, donc voilà, on a le bois, puis après, on aura à peu près les cases par lesquelles on est passé en première partie, à savoir l'eau. On va chercher de l'eau à la source, enfin, dit au ruisseau directement. On transporte l'eau vers la voiture. Et puis après, il y aura ce moment où on passe par l'école, puisque Takumi a de nouveau oublié sa petite fille d'aller chercher sa fille. Donc on passe à l'école. De nouveau, elle est déjà partie en avance. Donc de nouveau, on se retrouve dans la forêt à la chercher. Et puis on ira vers le soir aussi. Ça va se terminer dans le nocturne. Donc globalement, on repasse à peu près. Je ne détaille pas, mais vraiment, ça serait encore plus détaillable ce que je suis en train de montrer. Sachant qu'il y a aussi, je pense, un jeu que j'appellerais à la Hong Sang-soo. Hong Sang-soo fait souvent des films en deux parties. Et souvent, la deuxième partie reprend des éléments de la première en les brassant autrement. Et donc, il va s'amuser un peu comme ça à glisser des éléments qui sont les mêmes, des détails. Et on a à peu près ça entre la première et la troisième partie du mal qui n'existe pas. Par exemple, je dirais des trucs comme la cigarette. Il y a un moment dans la première partie où Takumi fume.
Bah juste après avoir débité du bois.
Voilà. Et à un moment, il y aura une autre scène de cigarette dans la troisième partie. Simplement, ça, à ce moment-là, ils seront deux. Ça sera dans un autre lieu. Mais c'est le même motif. On reprend des motifs. À un moment, il y a même des figures de style. Par exemple, un moment où on est dans une voiture et la caméra est sur le siège arrière et donc elle filme l'arrière de la voiture qui est en marche et donc on a une espèce de travelling arrière qui quitte un peu la route qu'on est en train d'avaler. Et ça se retrouvera dans les deux parties aussi. Je passe sur les détails mais vraiment c'est très frappant de voir comment vous avez 1, 2, 3, vous avez 1 et 3 qui se répondent avec évidemment un système de variation entre 1 et 3. Et la variation majeure étant qu'il y a quand même un ajout de 1 à 3, c'est quand même le drame. Il y a un drame, on arrive à un drame qui est, on va dire un meurtre pour l'instant. C'est plus compliqué que ça probablement, mais on va l'appeler comme ça. Chose qui a été préfigurée dans la troisième partie par cette idée assez belle de la branche épineuse sur laquelle il y a une goutte de sang. Parce qu'il se trouve qu'une des deux visiteuses,
elle s'est
coupée. Voilà, elle devra être... Donc bon, comment dire, on pourrait très bien comme ça, en première vision, dire que la première partie montre une sorte d'harmonie. La troisième partie montre l'harmonie rompue. Et la deuxième partie serait ce qui a rompu l'harmonie. Ce qui appelle évidemment tout de suite une lecture, je dirais presque politique. Quels ont été les éléments qui ont fait qu'ils ont déstabilisé l'harmonie générale? C'est évidemment les étrangers, ceux qui sont venus de Tokyo, à savoir les employés de Playmode. Ils arrivent et ils font coupure dans le film. C'est comme si la deuxième partie coupait le film en deux, mais coupe aussi l'harmonie de ce village en deux. Et de fait, ils sont là aussi pour faire une rupture écologique. Donc là, on a comme ça une disjonction avec une espèce de schématisme qui serait campagne-ville. Et d'ailleurs, le projet de glamping, c'est quoi? Il s'agit de faire venir des gens de la ville à la campagne, puisque ça servira de lieu de séminaire pour la boîte. C'est même pas des espèces de randonneurs ou des écolos qui voudraient se ressourcer à la campagne. En fait, c'est un peu des bruns. Ils vont venir faire la fête ici. On sait très bien à quoi ça ressemble, les séminaires d'entreprise. Et donc, ils vont faire n'importe quoi.
D'ailleurs, ça leur est reproché.
Voilà. Ils vont faire du bruit, ils se coucheront tard, etc. Donc, le projet de glamping, le projet de Playmode, c'est de plaquer sur la campagne des éléments qui sont plutôt citadins. Alors, il y a quand même un truc par rapport à ce schématisme, parce que je pense que le film est beaucoup plus subtil que ce schématisme. Et il y a déjà un premier truc que je trouve vachement bien. Et politiquement, tout à fait notable, c'est que dans cette réunion, alors que se joue un côté champ contre champ, d'un côté les deux qui sont venus défendre ce projet, ils font de la com en fait ce jour-là, c'est pas des spécialistes du glamping, ils sont bien obligés de communiquer.
Ouais, et puis le CEO, il leur dit que c'est juste une réunion formelle.
Voilà, tout à fait. D'ailleurs, ils ont prévenu que la veille, pour oui, avoir le moins d'habitants possible. Exact. On connaît bien ça, ça s'appelle les réunions participatives. Tu sais, il faut impliquer les habitants, mais en fait, on aimerait bien qu'en fait, un, les habitants ne soient pas là, deux, s'ils sont là, qu'ils ferment leur gueule. Bon, le problème, c'est qu'ils ouvrent un peu leur gueule quand même. Et ce qui nous est dit à ce moment-là, contre toute attente par rapport à ce qui était disposé, à savoir dans le champ, les citadins, dans le contre-champ, les gens du coin, les gens ancrés dans le village, eh bien non. Takumi, qui est donc un peu le représentant du village, c'est lui qui parle le plus pendant la réunion, puis c'est avec lui qu'on est.
L'homme à tout faire du village, nous dit-on.
L'homme à tout faire, et donc il n'a pas de fonction, donc il est un peu le village incarné, d'une certaine manière. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit un truc très intéressant. Il dit, nous sommes tous des étrangers ici. Moi, mes parents, ils sont arrivés là après-guerre, et eux aussi, ils ont aménagé le territoire. Ce n'est pas des grands dépositaires millénaires. On n'est pas une espèce de tribu comme ça qui vivrait naturellement. Ce n'est pas vrai. Rien n'est naturel dans le fait humain. Donc, nous sommes des humains, nous sommes des étrangers. Donc, nous ne sommes pas en train de promouvoir une espèce d'enracinement identitaire. Nous sommes en train de promouvoir un enracinement par les gestes et par les faits, pas par l'être. Et d'ailleurs, il y a aussi la restauratrice qui prend la parole à ce moment-là, la restauratrice pour laquelle Takumi travaille. Enfin, mmh. Apparemment, il donne des coups de main, il donne un peu son...
Il lui ramène de l'eau, en fait.
Voilà, et puis je pense qu'il donne un peu de conseils sur les plantes et tout ça, bien sûr.
Ouais, il lui conseille de mettre du wasabi sauvage dans ses moutons.
À un moment, ils trouveront du wasabi. Et elle dit, c'est pareil, moi je suis là depuis 5 ans. Donc c'est pas du tout les villageois ancrés depuis tout le temps, comme ça, une espèce de tribu qu'il faudrait protéger. C'est très important pour le film, politiquement, de toujours rappeler que l'ancrage, ce n'est pas l'identité. Et que ce qu'on promeut dans ce film, ce n'est pas être d'ici, ça serait l'ancrage identitaire, je suis d'ici, c'est être ici. Quand tu es quelque part, sois-y vraiment, c'est-à-dire connecte avec ce qu'il y a autour de toi. Et c'est ça en fait la grande dichotomie qui est disposée par le film, entre la partie 1 et la partie 2 en quelque sorte dans cette dichotomie, c'est les gens qui sont là où ils sont et qui prennent la mesure et considération de l'environnement dans lequel ils sont, par opposition à des gens qui seraient jamais nulle part. Mais pas au sens où ça serait identitaire, mais au sens où c'est un rapport à l'environnement dans lequel on est. Alors évidemment, le quelque part, être ici, être là où on est et en tenir compte, nous est complètement incarné par Takumi et par le premier travelling avec sa fille, hein, qui elle est immédiatement présentée comme une fille très liée à la forêt, puisque c'est elle qui apparaît en premier, après un premier plan d'arbre.
Puis il y a une scène où ils reconnaissent des arbres ensemble.
Mais cette scène, elle résume à peu près tout, parce qu'il y a trois choses en une. Premièrement, il y a...
Le rapport père-fille ?
Ouais, il y a le rapport père-fille, c'est-à-dire il y a une transmission qui s'est faite, puisqu'elle connaît déjà les arbres et on voit qu'il l'a éduqué. Donc il y a déjà une espèce de... Voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est la continuité de père à fille, ce qu'on appelle la transmission. Et puis, il y a aussi, dans le même temps, une continuité entre père et fille et la nature. Ils connaissent ce qu'ils voient. Ils savent le nommer. Et puis, la troisième continuité qui se joue dans ce travelling, c'est la continuité du travelling lui-même. C'est-à-dire que d'avoir fait ça dans un travelling unique, c'est d'établir, si tu veux, la figure de la continuité au cinéma. Il n'y a pas de coupe. Alors après, si on regarde de l'autre côté, du côté de Playmode, on va les appeler comme ça, bah c'est tout le contraire. C'est des gens de la discontinuité. D'ailleurs... quand ils font la réunion, ils passent un film un peu promotionnel, quoi, pour voir voilà c'est quoi notre projet, etc.
Et puis juste après, il y a un cut où justement on retrouve Anna qui
la balade. Petite, voilà, elle est dans la forêt. Mais là, il y a une disjonction formelle énorme parce qu'on voit le film, on le voit à peine, hein, on le voit pendant 20 secondes, mais on comprend déjà le truc, quoi. C'est hyper cuté, il y a des plans partout, donc tu vois, c'est cuté, il y a des coupes. Parce qu'on a fabriqué quelque chose au montage, on a fabriqué un faux rapport à la nature, qui est évidemment un rapport économique, un rapport de rentabilité, un rapport de publicitaire. Et donc, ce n'est pas un bon rapport. C'est des gens qui instrumentalisent la nature et plutôt que d'en prendre considération véritable. Cut, brutal, et on se retrouve tout de suite avec la petite fille qui, elle, au contraire, se retrouve dans un plan large où elle est vraiment complètement prise dans l'environnement. Elle est vraiment, on va dire, en harmonie à ce moment-là. Mais de la même façon, le premier plan où on arrive à Tokyo... Il y a un plan large, en fait, sur Tokyo, vue d'ensemble, je crois qu'il y en a deux.
Une vue sur des rails.
Sur des rails, oui, d'ailleurs, oui, en fait, tout est fait pour que ce raccord soit brutal. C'est-à-dire que ça fait une heure qu'on était un peu quand même dans une espèce de paix et de douceur, notamment sonore.
Ouais. Puis, mais juste et avant, là, c'est la nuit, justement, avec l'eau, voilà. Le doux bruit de l'eau qui
tout
coule.
Tout à fait. Le bruit de l'eau ayant pour première caractéristique d'être un bruit continu. Et là, d'un seul coup, on a au contraire du discontinu, on a une dissonance, c'est le son qui nous arrive dans la gueule, c'est le son de la ville, quoi. Et en plus, évidemment, il en a rajouté, parce que dans le plan, je crois que non seulement il y a un train, mais aussi des bagnoles. C'est comme s'il avait voulu cumuler vraiment tout le bruit. Bon, et on se retrouve dans la réunion, qui est pour moi magistrale, formellement. C'est là qu'on voit que Hamaguchi, c'est quelqu'un, quoi. Parce qu'il a cette réunion à faire, qui en soi n'a pas un intérêt majeur. Bon, on va voir des gens, on va voir à peu près ce qui mijote, on voit leur gueule. C'est des start-upers, quoi, globalement. Enfin, on va les appeler comme ça, tu vois. C'est de l'économie. En plus, c'est de l'économie, même pas, enfin, qui produit rien. C'est du vent, c'est une agence. Bon. Alors, ils sont en distanciel, donc déjà, il y a une coupe. Il n'y a plus de continuité dans l'espace. On se voit à travers un écran, chose qu'on connaît bien dans nos vies modernes. Mais Hamaguchi ne va pas se contenter de ça. Il va accorder à l'écran, qui est d'abord un grand écran, c'est même pas un écran d'ordinateur, c'est une espèce d'écran de télé, mais sur lequel on projette l'ordi. Il va magistralement négocier ça en termes de découpage. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, c'est vers la fin de la scène, tu as une espèce de plan qui serait comme filmé par la caméra de l'écran, comme il y a une caméra d'ordinateur. Et tu vois en fait la pièce où il y a les trois parties prenantes de la réunion. C'est après que le consultant est coupé. Mais ce plan est vertigineux parce qu'en fait, il enferme totalement les trois protagonistes.
Ça les, c'est, il y a une claustration, il y a un effet de claustration.
C'est comme s'il y avait pu, ils étaient, déjà, ils sont à l'intérieur. C'est la première fois du film qu'on est à l'intérieur, sauf la réunion. Mais en tout cas, on a été très largement en extérieur depuis. Mais on est à l'intérieur au carré. Et en plus, on est donc en train de parler. Bon. Après, il y a cette espèce de mec, le consultant, en fait, qu'il consulte en visio. Bon, on voit qu'il n'a pas le temps, il a une autre réunion en ligne, etc. Donc lui, il n'existe qu'à travers l'écran. C'est une créature qui n'a pas de dehors. Il est complètement dans une boîte.
Mais il est hors sol, d'une certaine façon.
Alors, totalement hors sol, pour reprendre les éléments habituels de stigmatisation de ces gens-là. Hors sol, déconnecté, etc. Mais là, je veux dire, tu l'éprouves vraiment. C'est pas qu'une idée, quoi. Tu vois ce que c'est. Bon. Par ailleurs, il se trouve, le type est doublement enfermé, parce qu'il y a une très, très belle idée, très simple. Il faut toujours avoir des idées simples au cinéma.
D'être dans une voiture.
Mais bien sûr. Je pense que n'importe qui n'y aurait pas pensé aurait mis ce mec dans son bureau. Puis ils auraient fait un visio de bureau à bureau. On l'a mis dans une voiture. Ce qui déjà, je pense, en un seul plan, on comprend la vie de ce mec. Passe sa vie, en fait, dans sa bagnole ou dans son bureau, toujours avec son portable, toujours en réunion, qu'il fait un peu n'importe où, dès qu'il peut.
Qui est jamais enraciné, d'une certaine façon, par opposition au villageois.
C'est vraiment l'opposition absolue de ce qu'on aura vu avec la balade du père et de la fille, notamment, mais entre autres choses. Parce qu'il y a plein d'autres éléments à la campagne qui témoigne d'un ancrage, alors que là, on est vraiment dans un désancrage, quoi. On est vraiment dans des gens qui ne connectent avec aucune extériorité, quoi. C'est une espèce de pure intériorité comme ça. Donc, il est dans une voiture, donc ça fait double emploi, etc. Voiture qu'on retrouvera d'ailleurs dans la troisième partie de cette deuxième partie, puisque nos deux, Mayasumi, c'est ça ? Takahashi et Mayasumi. Attends, je l'ai ou pas ?
Mayuzumi.
Mayuzumi, j'étais vraiment pas loin. Et Takahashi, c'est ça, hein ?
Takahashi.
Ouais, je l'ai celui-là, ça y est. Mayuzumi et Takahashi. Donc vont de nouveau au village parce qu'ils ont été un peu téléguidés ou mandatés par leur patron pour aller un peu reparler avec Takumi pour pouvoir arranger quelque chose avec une bouteille de vin. Et on a cette longue scène qui doit durer au moins 10 minutes. Bon, bah, on sait bien que Hamaguchi aime bien la bagnole. On le savait depuis un film où il y a la bagnole dans le titre. Mais alors là, c'est pareil ce qui fait que le découpage, c'est vraiment... ça installe quelque chose de physique. C'est vraiment un cinéaste très physique, Hamaguchi, vraiment. De la même façon qu'il y avait... On avait très peu de coupes dans nos travelling et dans les déambulations diverses et variées de Takumi à la campagne, ou en tout cas dans son milieu de vie. C'est très découpé, la scène de réunion à Playmode, et la scène de bagnole est très découpée aussi. Il y a beaucoup de plans, en fait. En fait, il n'y en a pas tant que ça, parce qu'on est chez Hamaguchi, qui n'est pas le type le plus dispendieux en plans.
Moi, j'en ai compté trois, mais...
En fait, il y a trois axes. Il y a plus de changements d'axes, si tu veux.
Okay.
Voilà, il coupe beaucoup, quoi. Pour du Hamaguchi... En plus, à mon avis, ça a dû lui arracher la gueule de faire autant de coupes comme ça, mais là, ça s'imposait, parce que précisément, on est chez les gens de la rupture. Et alors, il y a plusieurs plans, et il y en a un qui est un plan où la caméra est derrière, et qu'est-ce qu'on a comme horizon ? On a au premier plan les deux protagonistes, mais donc on a quoi en ligne de fuite ?
La route.
On a la route. À aucun moment dans le découpage, tu auras... surtout pas un plan de coupe sur le paysage qu'on est en train de traverser, surtout pas, on sera toujours dans la bagnole. Et alors, dans ce plan où la caméra est derrière et on filme les deux qui sont sur les sièges avant, évidemment, par définition, ce plan est génial parce que...
Il y a le rétro d'ailleurs aussi.
Ouais. Mais les deux, là, on les voit à peine, en fait. Ils sont très escamotés par le siège.
Comme dans Drive My Car, ils sont filmés comme le couple.
Il y a un bout de tête qui dépasse. Et surtout, la façon dont c'est cadré fait qu'on ne voit jamais bouger. Il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que celui qui conduit... On ne voit pas les mouvements de la conduite. Qu'est-ce que ça fait comme effet physique, ça ? Je veux dire, moi, je l'ai conscientisé, mais au bout de 2 minutes, c'est qu'en fait, la voiture, elle avance toute seule, en fait. Il n'y a pas de conducteur. Bon, là, nos deux tourtereaux, là, qui ne sont pas des tourtereaux, mais disons l'homme et la femme, Mayuzumi et Takahashi. Putain, je suis vraiment énorme en japonais, quoi. Dans 2 ans, je suis bilingue, je pense, en nippon. Ils sont eux-mêmes des hommes-voitures. Et c'est important, la voiture, c'est le mouvement. Enfin, il y aura plein de choses à dire. Bon, tous ces éléments cumulés font que ces gens-là sont nulle part. Il y a un dernier élément dans leur dialogue même qui va dans ce sens-là, c'est qu'on se rend compte de ce que c'est que ce business. C'est, déjà, on a tiqué dès le début, puisqu'on s'est dit, tiens, il y a une entreprise qui veut faire du glamping. Bon, bah, c'est une entreprise, quoi, de tourisme. Mm. C'est ça qu'on se dit, nous. Ouais. Parce que nous, on vient d'un vieux monde où les boîtes, elles avaient une activité économique
qui est liée,
que tu as un peu une compétence de base et ils font ce qu'ils font, quoi. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des chaussures, ils vendent des chaussures, tu vois. Là, en fait, pas du tout.
C'est une agence de création artistique.
C'est n'importe quoi.
Mais lui, il est agent d'acteur.
Voilà. Alors, le mec a voulu au départ être agent d'acteur. Après, il a voulu être acteur. Il a été acteur dans un premier temps. Mmh. Bon, au moins, là, il y avait un petit savoir-faire. Puis après, il est devenu agent d'acteur, ce qui est déjà non plus le savoir-faire, mais la communication du savoir-faire. Et maintenant qu'ils sont dans une agence de télé ou d'acteurs de je sais pas quoi, on leur demande d'aller promouvoir un projet de glamping. Mais c'est n'importe quoi. C'est qu'en fait, qu'on voit, il y a aussi une déconnexion entre le cœur d'un métier et les gens qui le font. C'est-à-dire qu'on voit bien que finalement, n'importe qui pourrait faire ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne demande pas un savoir-faire, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on a vu du côté de Takumi et des autres. Où là, il faut quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Peu à peu, en me baladant dans la forêt et en vivant ici, j'ai appris à reconnaître du wasabi. Et peu à peu, j'ai appris que ça se mariait bien avec tel, mais je ne sais plus lequel.
Les udon, les soupes de udon.
Oui, bah évidemment, on parle de gastronomie, ça y est, le mec est au taquet. Bon, tout ça fait que comment dire, la vraie dichotomie, plus subtilement que ville-campagne, c'est vraiment ça, c'est continuité entre l'homme et son espace et discontinuité entre les individus et leur espace. Voilà. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, si le film était que ça, il aurait une espèce de maîtrise de ses moyens extraordinaires et une harmonie forme-fond tout à fait épatante qui pourrait épater les gens qui pensent que le grand art s'obtient par une harmonie pure entre la forme et le fond. Mais c'est pas ça le grand art. Parce que sinon, le grand art serait scolaire. Je veux montrer qu'il y a d'un côté les discontinus et de l'autre côté, il y a de la continuité. Bon, d'un côté, je fais des travelling et de l'autre côté, je fais des raccords. C'est un peu blanc sur blanc, où en fait, ça voudrait dire que la forme se rabat sur le fond. Fort heureusement, le film est quand même un tout petit peu plus subtil que ça. Mais là, je te laisse la parole pour le subtil.
Bah, le subtil, c'est une belle transition que tu me fais. Hein.
À chaque fois que tu parles, c'est subtil. À part peut-être quand tu parles du PSG, là, c'est plus du tout subtil, on ne comprend pas.
Bon, en tout cas, autant Yamaguchi, il ne perd pas de temps entre ses derniers films, tu l'auras noté.
C'est vrai, pour quelqu'un qui aime la lenteur, il va vite.
Ouais.
Ouais. C'est étonnant d'ailleurs, étonnant. Okay. Pourquoi il accumule des choses comme ça, c'est bien. Bah, tant mieux pour nous.
Ouais, mais après c'est récent, hein, parce qu'avant il prenait un peu plus son temps, j'ai vu dans sa film.
Ouais.
En tout cas, autant ce film, il prend son temps. Hein. Première remarque sur sa forme, c'est qu'on a des plans majoritairement longs. Dans ce qu'on pourrait appeler le prologue, on a donc plusieurs minutes pour observer en travelling des branches d'arbres. Quand Takumi, tu l'as dit, débite du bois ou récupère de l'eau de source, bah pareil, on s'attarde avec lui. C'est-à-dire que par la mise en scène, Yamaguchi installe une quiétude intrinsèque à un environnement à faible densité humaine. Et puis, excepté quelques travelling et panneaux, le pendant de ce filmage posé, c'est une caméra fixe. Plan long et fixe donc, et très souvent large, ce qui là aussi installe l'idée que ce cadre forestier, il a une incidence sur le tempérament de ses habitants. Ce qui n'empêche pas par ailleurs d'avoir quelques plans serrés lorsqu'un personnage fait un focus sur une matière en particulier, comme avec la cueillette de wasabi. Mais en tout cas, l'invariance de la mise en scène, c'est de toujours prendre son temps, y compris même dans la voiture ou avec les citadins.
Oui, c'est vrai que là on est quand même dans une temporalité très distendue. Quoi. Mm-hmm. Mais disons que c'est presque speed pour du Yamaguchi, quoi, cette bagnole. Mais ça reste extrêmement distendu par rapport au code majoritaire du cinéma.
Et ce rapport au temps, donc, comme tu le disais, par rapport au film standard, bah, il produit un film épuré du point de vue du nombre de plans ou de scènes. Autrement dit, de la même façon qu'en montagne, on se déleste du superflu parce que l'essentiel est dans ce qu'on voit, ce qu'on entend ou ce qu'on respire, eh bien, le film, par l'épure qu'il dispose, y compris au niveau sonore, bah, nous permet d'amplifier notre acuité visuelle et auditive. Alors, l'incidence de cette épure couplé à l'environnement filmé, c'est de congédier les saturations des villes, hein, les bruits, le rythme, la densité. En tout cas, pour revenir au temps, le film dispose en parallèle de l'opposition ville-montagne, un fossé entre le temps du capital, de la rentabilité, et le temps d'attention requis à l'équilibre du vivant. Et ça, c'est bien sûr la grande scène de présentation du projet Glamping, hein, c'est-à-dire qu'on a une entreprise, Playmode, très pressée d'exploiter son camping pour, nous dit-on, toucher des aides liées au Covid, hein, être public pour, on imagine, soutenir des projets visant à inciter les citadins à sortir de ville après avoir été confinés pendant des mois. Et donc, motivé par une logique purement lucrative, on se rend compte que Playmode a négligé les conséquences écologiques de son projet. En tout cas, ce qui est fort dans cette scène, c'est d'avoir, je trouve, laissé un dialogue durer 15 minutes entre toutes les parties prenantes, parce que ça donne à la fois une légitimité et du volume à la colère des villageois. Et puis surtout, laisser chaque villageois restituer ses raisonnements dans leur intégralité, bah, ça permet de concevoir le temps comme une valeur cardinale. Hein. Sans le temps, pas de connaissance fine de l'écosystème, pas de processus d'enracinement avec un territoire donné. Hein, par exemple, si on reprend l'exemple de la restauratrice de Udon, elle dit pas seulement qu'elle est venue de Tokyo juste parce que la pureté de l'eau a rendu ses soupes meilleures, elle dit aussi cette satisfaction d'établir des liens forts avec les locaux qui apprécient ses soupes.
Ouais.
Et donc, cet enracinement, cette compréhension du territoire, elle nécessite du temps, qui définitivement fait du temps la valeur du film, et par ricochet celle de nos vies.
Qu'est-ce que c'est le udon ?
Le udon, en fait, c'est les nouilles qu'il y a dans les soupes de...
D'accord.
Dites de udon, mais c'est des vermicelles qui sont très épais, en fait.
Ok.
Et c'est de la farine de froment, contrairement au soba. Et soba, c'est plus fin.
Oui, bon,
c'est de la farine de sarrasin.
Ça y est, le mec est parti. Ok. J'ai compris. Non, mais de fait, de toute façon, on sait très bien que la jeune occasionnée, un jour, deviendra culinaire. On le sait. Du coup, je n'en serai pas. Tu finiras seul à faire du culinaire. Oui, je pense que pour. Bon, tu as précisé un petit peu ce que j'avais un petit peu commencé à amorcer. Oui, oui. Et... Bon, moi, il y a un plan, par exemple, qui me paraît. Faut toujours partir des plans qui te frappent, je pense, quand tu es devant un film. Je n'ai pas de méthode, hein, mais moi, dès qu'un plan me paraît étrange, je m'y arrête un peu. Je me dis, tiens, il porte le secret du film. Il y a un plan bizarre. Il y en a plein, des plans bizarres, mais il y en a un notamment, c'est quand Takumi arrive à l'école, parce que donc il est en retard. De nouveau, il a oublié sa fille.
La première ou la deuxième fois ?
La première fois, il arrive et au premier plan, nous avons les enfants qui jouent.
À 1, 2, 3 soleil.
Ils jouent à 1, 2, 3 soleil. Alors non seulement ils jouent à 1, 2, 3 soleil, mais ils sont dans la phase statique de 1, 2, 3 soleil. Une immobilité qui me paraît très largement au-delà du réalisme par rapport à 1, 2, 3 soleil. Il me semble que ça dure un peu moins longtemps quand même, le temps qu'on se retourne et que voilà. Pour y avoir beaucoup joué, je crois que les... Bon. Donc là, il y a, si tu veux, le film, mais comme, je dirais, tout le cinéma d'Amaguchi, mais notamment celui-là, qui en plus a tendance à mettre ça en avant comme thématique, tend à une sorte d'immobilité. Alors qui est une façon de repréciser encore la dialectique ou la dichotomie ou l'opposition qui est en train de se jouer dans ce film, c'est le discontinu et le continu, mais ce serait aussi le statique et le mouvement. Parce qu'on disait, c'est un peu la nature contre la ville, pour le dire de façon bête. Mais ce qui est très frappant dans la nature telle qu'on la voit en long et en large quand même dans cet espace que j'ai appelé campagnard, mais t'as raison d'appeler montagnard, bon, ce qui est frappant, c'est l'immobilité, quoi. C'est tout à fait, je veux dire, c'est un phénomène physique aussi, hein. On le ressent, puis on finit par l'identifier, le conscientiser. Bon, Amaguchi s'est dit, je vais filmer là. Pour la première fois, effectivement, je vais, alors que j'ai pu tout filmer de l'urbain jusque-là, donc pas mal de scènes d'intérieur, des gens dans les cafés, des gens dans les appartements, des gens dans des rues, mais les rues, c'est un peu de l'intérieur-extérieur, enfin de l'extérieur-intérieur. Là, pour le, bon, je vais aller vraiment dans le grand air, quoi. Et donc, le choix de ma saison va être tout à fait décisif. Mmh. Parce que, à la rigueur, si tu fais un film qui se passe que entre potes qui jouent au poker, que ce soit l'hiver ou l'été, on s'en fout un peu. Mais quand tu filmes à l'extérieur, notamment à la montagne, le choix de la saison sera absolument déterminant sur la morphologie de ton film. Romer en savait quelque chose. Il savait bien qu'au commencement et la saison, il a fait des contes des quatre saisons. Ouais. Contes d'été, contes d'hiver. Et oui, du coup, ça donne pas la même couleur à chaque film. Il y a une couleur hivernale, une couleur estivale. Ouais, c'est pas rien, quoi.
Il y a des feuilles aux arbres en été.
Par exemple, entre autres grandes différences entre toutes les saisons. Là, il choisit la fin de l'hiver. Il choisit un hiver où il fait beau. Mmh. Ah, donc il y a du soleil tout le temps. Très bien. Mais surtout, il choisit le moment où l'hiver est stabilisé. C'est quoi l'hiver, en fait ? Je ne suis pas un grand spécialiste de météo, mais c'est le moment où il n'y a plus trop de contact entre les masses d'air. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de perturbation. Mmh. Bon, je schématise. Là, il a pris ça. C'est le temps qui dure 2 mois comme ça, quoi. Donc le ciel est absolument bleu, il n'y a pratiquement pas de variation de soleil, même si à un moment on va quand même aller dans la tombée de la nuit, évidemment, il y a quand même la variation diurne, mais surtout il n'y a pas de vent, il n'y a pas de choc de masse d'air et donc il n'y a pas de vent. Très et bien. Donc ça donne des plans où les arbres tremblouillent un peu, mais vraiment très peu. Mmh. Les arbres nous font plutôt, à chaque fois qu'ils sont filmés, ils sont souvent filmés et souvent en plan large. Bon, d'abord, ce n'est pas une forêt primitive. Hein. On sent que c'est une forêt qui a été plantée parce que vraiment, les arbres sont vraiment très droits. Quoi. On voit bien que c'est une forêt d'exploitation.
Des lignes d'arbres.
Ouais, ce qui va aussi contre une espèce de truc d'origine. Pas, non, il n'y a pas de nature comme ça originelle. Ça n'existe pas ou presque plus. Hélas, pourrait-on dire, mais c'est comme ça. Et donc, les arbres sont un peu droits comme des i. Quoi, et ils ne bougent pas. Ils sont vraiment Oui, très droit sur leurs pattes, quoi. Très ancré, très... Et ça bouge pas. Même quand on a affaire à une végétation un peu plus molle, un peu plus flexible, je dirais, presque des joncs, des choses comme ça. Je suis en botanique,
oui,
là, donc oui.
Près du point d'eau dessert, là.
Ouais. Bah, il y a un peu de vent, donc forcément, ça bouge un peu. Mais franchement, c'est léger, hein. Donc, le seul principe de mobilité, c'est une espèce d'anti-mouvement, c'est l'eau. Mais l'eau, comment dire, quand on regarde de l'eau couler, c'est toujours un peu le même spectacle. C'est une espèce de mouvement statique, l'eau, en fait. Surtout quand elle n'est pas torrentielle et qu'elle n'est pas...
Le point d'eau, il est glacé, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Donc ça fige aussi. C'est-à-dire que c'est aussi un paysage de neige. Alors, un peu de neige tardive. On voit bien que ça va dégeler dans pas longtemps. Ça commence déjà à dégeler. Mais la neige, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Elle a deux incidences, la neige. On dit souvent d'un paysage de neige que c'était un paysage figé. C'est comme si la vie était figée dans un manteau de neige, pour reprendre un cliché bien connu. Et la deuxième chose que fait la neige, c'est qu'elle assourdit tout. Donc non seulement on a du statique, mais on a aussi une nature extraordinairement silencieuse. Le vent, c'est quoi le vent? C'est ce qui fait bouger tout, mais c'est aussi ce qui fait le son de la nature. Il n'y a pas le son de nature, très peu. Tout est très mat, quoi. Tout est assourdi, rentré, comme ça. Ça, c'est vraiment un choix fondamental et primitif d'Amaguchi. Hein. C'est ça qui donne la carte d'identité formelle de son film. Hein. Elle est là. Hein. Tout le reste n'est qu'ajout et superficiel. Une fois que tu as posé ça, tu as presque posé le film. Et donc, il voulait que... Comment... Pourquoi tu rigoles?
Non, mais j'imagine... Je t'imagine, toi, en agent au contrôle des frontières des films...
Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, ouais.
Vérifier la carte d'identité des films.
Ouais, ouais. Mais il n'y en aurait pas beaucoup qui passeraient, je vais te dire. Moi, je serais assez répressif. Ah oui. Bah, moi, l'extrême droite pourrait m'élire pour ça. Parce que moi, les frontières, je veux dire, ça bloque. Hein. Là, c'est fini, là, nos frontières perméables qui laissent passer n'importe qui. Bon, il resterait deux films, quoi, sur 1000 candidats. Non, c'est très figé. Et donc, la nature, c'est le figé. Et. En face, on a quoi? On a des gens qui sont dans le principe de mouvement. D'ailleurs, on les a beaucoup associés aux voitures. Et donc, eux, ils veulent faire bouger la nature. Ils veulent la transformer, la reconfigurer. Et il va y avoir des travaux et ça fera du bruit. Ils apportent le bruit, ils appellent le mouvement. Bon, c'est ça, c'est une autre façon de caractériser l'affrontement qu'on a en présence dans ce film.
Après, il est évident... parenthèse, Takumi prend la voiture aussi de temps en temps.
Tout à fait, mais t'en fais pas, j'ai pas dit mon dernier mot sur Takumi. Oh là là, si tu savais. Je suis venu avec beaucoup de dossiers. Pour l'instant, j'y vais calme, tu vois, mais on va sortir les vrais dossiers plus tard.
Ça marche. Moi aussi, j'ai un truc sur lui.
En tout cas, il est évident que dans un premier temps, Amaguchi a choisi son camp. Scénaristiquement, il oppose le mouvement au figé, et lui, du côté du figé, bien sûr, puisque sa mise en scène, alors on va dire bressonienne, a tendance à vouloir immobiliser ses comédiens et ses corps. Il y a une scène notamment d'extérieur, à l'extérieur de l'école, après la réunion, il y a une scène où ils sont en pied, il y a cinq personnages en pied qui sont en train de se parler, il y a les deux visiteurs, il y a Takumi, il y a un autre mec et il y a la petite fille, et c'est vraiment des poteaux, exactement comme les arbres. Ils sont droits comme des i, ils bougent pas. Ça, c'est vraiment la mise en scène de base d'Amaguchi, qui est un truc, oui, je pense qu'il y a à voir beaucoup avec sa référence première qui est Bresson, où on peut pas dire que ça gesticule beaucoup chez Bresson, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, les postures d'acteurs telles que préconisées par Amaguchi sont des postures qui détestent les gesticulations. C'est pas tant qu'ils détestent le mouvement, parce que on voit ces acteurs bouger, on les voit d'ailleurs marcher dans la forêt. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas allergique au mouvement, c'est la gesticulation. Et la gesticulation, c'est quoi? C'est un mouvement qui sert à rien. C'est un mouvement de trop. Alors, les acteurs adorent gesticuler, ils adorent ajouter les mouvements.
Et comme on l'avait vu avec Drive My Car, bressonien jusqu'au bout, puisque même l'expressivité, quand les acteurs parlent, elle est relativement absente.
Eh oui, on va réduire les choses au minimum utile pour la compréhension, pour le dialogue à jouer, etc. Mais pourquoi ajouter de l'expressivité? Pourquoi ajouter des mouvements de main? Tout ça, en fait, comment dire, obstrue le regard. Lui, il veut arriver à une sorte d'épure qui fait qu'on regarde l'essentiel, on est à l'os, quoi. Et donc, bon, alors, il y a un truc qui est quand même très frappant, c'est cette réunion dont tu as un peu parlé, mais je veux dire, elle est d'un calme fou. Ouais. Parce que, en plus, ce genre de truc dans le cinéma, on connaît bien, on en a vu des réunions, des assemblées populaires à propos d'un problème qui se pose au village.
Elle m'a fait penser, par opposition à la scène dans RMN de Moonju. Tu sais, t'as une scène de... Pareil, un peu pareil.
Qui est d'ailleurs une scène assez géniale politiquement, mais qui est tout à fait, elle, canonique par rapport à la façon dont on traite en général ces réunions. C'est qu'en fait, les cinéastes adorent ces réunions parce que ça permet d'intensifier leur film, quoi. Ça fait du mouvement, ça fait du bruit, ça fait de la dramaturgie, ça fait de l'ambiance. Et en général, c'est toujours fait pareil. Il y en a un qui prend la parole, qui déclame ce qu'il dit, parce que attention, on a affaire à des gens pas contents. Et en général, c'est salué par des huées ou des applaudissements. Mais des applaudissements, mais alors, tonitruants, ou des huées absolument violents, virulents, etc. Là, on la croit. On a trois pauvres applaudissements, mais on dirait qu'ils sont quatre à applaudir.
Puis un mec qui fait...
Il y a un mec à la fin qui fait un drôle de bruit depuis le dernier rang, et ils sont statiques, ça hausse jamais le ton, alors que quand même, il est question d'un truc important. Les mecs sont quand même en train de se rendre compte qu'il y a un projet là qui va en gros niquer le système de l'eau dans leur environnement. C'est pas rien, c'est carrément... C'est une agression qu'ils subissent. Et ils te répondent. Alors moi, je veux dire, je vois très bien... immédiatement se mettre en place des spectateurs qui vont aller me raconter que oui, c'est les Japonais. Bon, alors la petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est japonais ou pas japonais, je ne connais pas assez ça. Peut-être qu'effectivement, c'est pas si faux qu'il y ait là une japonitude dans le calme. Sauf que je constate, pour voir quand même pas mal de films japonais dans l'année, tu as tout à fait plein de films japonais où ça gesticule, ça gueule, ça crie, ça grogne. Tu trouveras autant de gesticuleurs chez les Japonais que tu en trouves chez les Français, et tu trouveras autant de calme chez les Français, etc., etc. Donc est-ce que les lignes sont véritablement géographiques et nationales? Est-ce qu'elles ne seraient pas tout simplement esthétiques? Moi, je crois que Hamaguchi, il est plus bressonien que japonais. Il est sans doute japonais dans un aspect ou un autre. Mais non, j'insiste là-dessus parce que j'ai souvent été témoin du fait que ce genre d'hypothèse devant un film te salope totalement le regard. C'est-à-dire que si tu commences à regarder un Hong Sang-soo en disant mais ouais, non, mais c'est normal parce que les Coréens ils sont comme ça. Oui, bah déjà, t'as pas vu de Park Chan-wook parce qu'il se comporte pas de la même façon déjà, et ni Bong Joon-ho d'ailleurs, pour prendre un peu les trois meilleurs. Donc, souvent, c'est vraiment des machines à ne pas voir ce qu'on voit. Et donc, il faut garder à cette réunion le traitement très particulier qu'elle fait et qui est hamaguchien avant d'être japonais. Bon, en tout cas, on est sur des hypothèses de non-expressivité, de non-mouvement, qui bien sûr s'incarnent exemplairement dans le personnage de Takumi, dont on a dit qu'il était le village incarné, etc., et qui donc a tous les traits à la fois d'Hamaguchi et du village, à savoir il est particulièrement statique quand il... Je dis pas qu'il marche pas, encore une fois, mais il est inexpressif. Enfin, c'est vraiment un bloc. Hein. Ouais. Un bloc de résistance, d'ailleurs, pourrait-on dire aussi. C'est-à-dire, il oppose son silence au bruit du monde. Oui, très... Alors, d'ailleurs, c'est pas un acteur, je crois.
Et bah, c'est ça, c'était ça mon
t'as
mon
toujours
info,
les bonnes infos.
Info.
Ouais.
C'est son assistant.
Enfin, dès que j'ai une info, tu l'as déjà, quoi. Et c'est un peu frustrant pour moi. Ouais. C'est un peu vexant, même.
C'est son assistant.
Ouais, c'est son assistant.
Qui l'a conduit dans la région.
Voilà.
Parce que Hamaguchi, comme toi, n'a pas le permis.
Bah oui, comme tous les gens intéressants. J'ai remarqué ça. Non, mais ça se vérifie vraiment. Hein.
Ouais.
Les gens qui n'ont pas le permis sont tous bien. Et les gens qui ont le permis, ouais, bof, quoi. Non, je crois même qu'ils ont fait des repérages ensemble. Et que donc, comme l'assistant souvent se mettait dans le plan pour voir ce que ça faisait un corps dans le plan... Eh ben, Hamaguchi, il a trouvé vachement bien. Ben oui, ben c'est pas inintéressant tout ça. Mais on n'est pas obligé de prendre des acteurs, les amis. Hein, n'oubliez jamais ça. En plus, ça coûte moins cher. Donc, pensez-y. Donc, Takumi, il est comme ça. Il y a une espèce de force qui vaut pour son impassibilité. Et ce qu'on va voir dans deux scènes sur lesquelles tu t'es un tout petit peu arrêté, mais j'aimerais bien m'y arrêter encore plus longtemps, que les premières scènes avec lui. Cette scène folle où on le découvre coupant du bois. Bon, d'abord, il attaque du bois à la tronçonneuse, on peut dire ça.
Tronçonneuse.
Et après, à la hache. Bon, alors évidemment. Premièrement, il y a une continuité dans le filmage puisque c'est un plan unique. En tout cas, à partir du moment où il est avec la hache, on le voit fendre 4 ou 5 bûches. N'importe qui aurait fait qu'une seule bûche. Hein. Je veux dire, Hamaguchi, il en fait 5. Et c'est du temps réel, donc il fait vraiment le geste. C'est important. Et après, on a un léger panneau qui le suit vers la maison. Et là, on se dit, bon, bah, il va rentrer dans la maison, pour on va en finir avec ce plan qui commence à durer. Pas du tout. Il allume une clope et on reste avec lui encore une minute. Bon, donc continuité. Mais le fait qu'il fende le bois comme ça, c'est avec un geste qui marche à tous les coups. Mais c'est génial comme figuration d'une harmonie concrète. Pas le concept de l'harmonie, pas les grandes théories sur l'harmonie, c'est un geste. Ce type sait faire ça.
C'est précis, quoi.
C'est précis, il sait comment se positionner.
Contrairement à Takahashi qui sera...
Qui aura du mal en troisième partie, qui apprendra assez vite d'ailleurs, mais qui évidemment dans un premier temps n'y arrive pas. Parce que c'est tout un art. Et puis après on aura une scène qui est tout aussi primitive, qui est la scène avec l'eau. On commence par là quand même. Un, le bois. Deux, il va chercher de l'eau. Et alors, il faut voir comment il va chercher de l'eau. Non seulement il va à la source, ok, on a compris, mais il la prend à la louche. Il faut vraiment avoir que ça à foutre. En un plan, moi j'adore ça, si tu veux.
Parce que toi, t'aurais mis la jerrycan direct.
Ben, moi directement. Ah bah ouais, 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 ouais. Moi, j'ai pas que ça à foutre, quoi. Moi, j'ai un film à voir. Ouais, ouais. Non, mais, ouais, mais je déconne, mais pas en fait. Ça sert à ça le cinéma, je veux dire. Tout est incarné, tout est physique. Moi, il y a des grands discours qui m'énervent, et dès qu'on trouve le geste qui équivaut à ces discours-là, je suis content. Et là, oui, je ressens ce que c'est que la patience de gens qui ne vivent pas en ville. Ben, il faut avoir le temps, et il faut prendre le temps. Et surtout, tu prends, comment dire, il y a une délicatesse dans le geste aussi. C'est-à-dire que j'arrive pas comme un bourrin à prendre toute l'eau qu'il me faut.
Avec des gants, il est avec des gants en plus.
Ouais,
comme ça,
c'est très beau.
Il contamine pas l'eau avec les bactéries qu'il y a sur ses mains.
C'est formidable, très très beau détail. Ouais, ouais. et donc faut prendre le temps, etc. Alors non content d'avoir eu cette scène, on a le moment où il va apporter l'eau à la voiture, et là il fait un truc fou au Magouchi, c'est-à-dire que honnêtement, hein, je pense que même les plus grands cinéastes à part lui auraient ellipsé. On a eu l'eau, cut, on se retrouve à la voiture, quoi. On n'en parle plus, allez, on rentre, quoi. Il y a un truc, quoi. On a faim. Lui, je crois qu'il fait ça en 5 plans, il me semble. Hein. C'est pas 5, c'est 4. On n'a pas besoin de ces plans, mais c'est pour restituer, ben voilà, la patience qu'il faut. Pour... On est descendu à la source, on a mis la voiture un petit peu à l'écart, parce que c'est préservé. Et donc, il faut marcher, quoi. Et puis, c'est dans des jerrycans, jerrycans un peu petits, d'ailleurs, dont on se rendra compte dans la troisième partie qu'en fait, c'est vachement lourd, puisque Mayuzumi, qui a une morphologie...
Mayuzumi.
Qui est moins costaude que les deux hommes, ben on voit que c'est lourd pour elle. D'ailleurs, quelqu'un l'aidera. Donc, ce qui est important, c'est que l'eau que tu vas chercher et dont tu vas te servir pour manger, pour plein de choses,
elle a une présence physique.
Ben, tu la sens passer, quoi. Mais c'est ça, en fait, être ici, être là où on est, c'est sentir passer ce qu'on manipule. Et donc, l'eau, il en prend la bonne mesure. D'ailleurs, je pense que c'est ça que revendique Takumi pendant la réunion. C'est qu'il faut prendre la mesure de l'espace. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et l'espace aussi, c'est l'espace qu'on traverse. Donc, s'il y a 100 mètres de moi à la voiture, eh ben, je vais les faire, les 100 mètres. Et je vais les sentir passer parce que j'aurai des bidons dans les mains. Et Amaguchi va faire en sorte qu'on les sente. C'est un petit peu ce que tu as dit. Hein. Mais vraiment, tu vois, là, j'en remets une couche sur le côté physique de la chose. Quoi. Moi qui ne suis pas quelqu'un de très territorialisé dans ma vie, le cinéma et ce cinéma-là m'offre des plages de rééprouvation, ce qui n'existe pas comme mot, des éléments, du temps, de l'espace, tu vois, autant de choses que nous autres, pauvres citadins déconnectés, avons du mal à vivre. Donc on commence quand même très fort avec ce Takumi, mais je voudrais juste pour finir apporter d'ores et déjà une petite nuance par rapport à ce truc, genre Takumi d'un côté, Playmode de l'autre. Il y a deux trucs qui nous invitent à bémoliser un peu. C'est que Takumi... Enfin, je vais commencer par les deux autres. Les deux autres, ce qui est assez beau de la part d'Amaguchi, alors qu'il les avait un petit peu peints comme des méchants. Bon, bah dans la voiture, on se rend compte quand même, ils ont ça pour eux, de pas du tout être dupes de ce qu'ils font.
Ouais.
Ils n'adhèrent pas à ce qu'ils font.
Mais ils se rétractent vite, hein, quand même, même dans la réunion. Ils reconnaissent, bah ouais. Ils reconnaissent qu'ils ont fait des erreurs, qu'ils sont allés un peu vite
parce
en besogne.
Sont, ils sont pas bêtes. Puis ils sont pas motivés parce qu'ils trouvent qu'ils font un boulot de con. D'ailleurs, elle le dit.
C'est ma dernière mission.
Elle dit voilà, lui, il veut quitter. D'ailleurs, il y a un scénario qui s'enclenchera, qui n'ira pas au bout, à savoir de lui, ça y est, il va habiter à la campagne. Maintenant, il veut couper du bois. Oh là là, il s'est jamais aussi bien senti. Bon, en fait, ça fait quand même un peu cadre qui fait un séminaire, enfin, une retraite en monastère pendant 2 jours, puis qui après reprend. Bon, on n'y croit pas trop au truc. Mais quand même, ils sont intéressants parce que Amaguchi a la grande bonté, la grande honnêteté, la délicatesse de leur prêter une lucidité sur la connerie de ce qu'ils font. Donc tout à l'heure, j'ai dit qu'ils faisaient un truc qui était déconnecté de tout savoir-faire, mais eux-mêmes sont déconnectés de ce qu'on leur fait faire. Quoi.
Ouais. C'est... Et puis inversement, même Takumi, il n'est pas réfractaire absolu au projet. Il dit évaluons-le et puis refaisons une réunion pour voir si c'est faisable ou pas.
Mais c'est bien à ça que je voulais en venir. Parce que si tu veux, il y a un plan qui manque dans le film et qu'on voit venir quand même de loin. Un plan ou une scène. Takumi étant peint comme il est peint. Nos amis de Playmode étant peints comme ils sont peints. Évidemment que scénaristiquement, il y a un truc qui nous pend au nez et que n'importe qui aurait fait, c'est la scène, qui arriverait plutôt dans le dernier tiers, où Takumi, ayant été ciblé par les autres, pour dire c'est lui en fait le chef, c'est le maire officieux, lui, le maire, il y a un maire doyen qui a un maire symbolique, mais le vrai maire c'est lui. Donc il faut le toucher lui, il faut le corrompre, bouteille de vin, et on lui proposait le gardiennage du glamping pour le retourner. Et nous évidemment tout de suite on se dit, va y avoir cette scène, ils vont lui proposer, et lui il va avoir un moment héroïque pour dire mais vous me prenez pour qui ? Un petit peu Clint Eastwood, le mec, tu vois. Allez, remballez-moi votre bouteille de vin, de toute façon, j'en veux pas, je bois pas. Reprenez-moi votre bagnole et foutez-moi le camp. T'es un peu Jean Gabin, tu vois.
Ouais,
c'est évidemment cette scène qu'on attend. Et ça soldera le film et c'est fini. Au revoir, quoi. Amaguchi serait un cinéaste moyen japonais. Mais cette scène, on l'a pas, on l'a bizarrement pas, quoi. Au lieu de quoi, on a quoi ? Ben, on a un Katumi qui est très accueillant, hein. Très, très accueillant.
Il les emmène au resto, il paye la note et tout.
Ben oui. Alors, je pense qu'il paye la note. Pour ne pas être suspecté de corruption. Tu vois, je veux dire, il veut pas se faire acheter. Donc, j'ai pas dit qu'il disait oui, hein, mais il dit pas non. Il dit pas non et ça reste un peu en suspens, ce truc, quoi. Et il est, alors, on pourrait dire, pareil, hospitalité japonaise. Ok, très bien, hospitalité japonaise. Oui, enfin, moi, je trouve qu'il est quand même très hospitalier, très tendre. Et effectivement, dans la réunion, par exemple, c'est lui qui reprend un moment une espèce de gauchiste au premier rang, là, qui est teint en blond, une espèce, le gaucho énervé.
Ouais.
Qui lui pense tout de suite que c'est le capitaliste qui les attaque. Il a raison d'ailleurs, comme tous les gauchistes. Mais il est un peu énervé. Et Takumi lui met ne rigole pas, je viens de dire une vérité, je dirais scientifique. il lui met la main sur l'épaule, genre calme-toi. Donc c'est vrai que Takumi serait une figure de la modération, de la pondération, de on s'énerve pas, on va discuter avec le président, le consultant, peut-être qu'on peut trouver quelque chose, il suffit qu'on s'écoute les uns les autres. Et à ce moment-là, on se dit, oui, on peut très bien mettre ça sur le compte d'une espèce de sagesse montagnarde aussi. On s'énerve pas, on cause. Ouais, mais quand même. Il apparaît à ce moment-là non plus comme une figure de la résistance bourrue, non plus comme cette espèce d'arbre indéplaçable qu'on croyait qu'il était, mais comme une figure du compromis, peut-être même de la compromission, parce que quand même, ça dure longtemps, le petit après-midi avec les deux autres, là. Il y a un moment, par exemple, je suis juste là-dessus, dans la troisième partie, comme dans la première, il y a un coup de feu. Off.
Ouais, coup de feu dont on suppose qu'un chasseur a tué un cerf.
D'ailleurs, on a vu un squelette de cerf, enfin un crâne de cerf, dans la première partie, dans la troisième. Il y a des chasseurs qui traînent, ils tuent des cerfs, et on a deux fois un coup de feu. Qu'est-ce qu'on a à l'écran au moment où on a le deuxième coup de feu ?
Ils sont en train de fumer une clope.
Ils sont en train de fumer une clope tous les deux. Takahashi. Putain, j'y arriverai jamais. Takumi, par contre, t'as vu, je l'ai bien. Hein.
Takumi, ouais.
Takumi, quoi.
Anna aussi, tu l'as ou
pas ? Anna, je l'ai. Ouais, c'est peut-être un peu plus facile, va savoir. Non, ils sont en train, les deux sont en train de fumer une clope, comme ça, tranquille, en se regardant d'ailleurs, sans sourire, peut-être pas déconner non plus. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le coup de feu. Comme si le coup de feu était la réprobation, ce qui est en train de se jouer entre eux. Comme si Takumi était en train de se vendre malgré tout un peu. Je vais trop loin. Mais pour dire que d'ores et déjà, on peut dire que c'est un tout petit peu plus compliqué que Takumi, notre héros des montagnes contre la méchante modernité citadine.
Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a un autre truc aussi, tu sais, par rapport à l'esthétique, c'est quand tu disais que ça gesticulait pas trop.
On peut le dire.
Il refait un truc qu'il avait fait dans Drive My Car, tu sais, ce que j'avais relevé dans l'épisode de Drive My Car avec les fermetures de portes où ça claque jamais.
Ah oui.
Ben là, il fait un truc avec les invités chez Takumi le soir reposent leurs tasses sur la table. C'est vraiment, mais il y a une délicatesse de dingue en fait à ce moment-là. J'invite tout le monde à le revoir.
Ouais, ouais. De toute façon, je sais pas comment il fait pour obtenir une espèce de film sous vide un peu sonorement comme ça. Mm. Il fait ça dans tout, même déjà dans scène 6, ça m'avait frappé en fait, qui est pourtant un film bavard, citadin.
En quatre parties, 5 parties.
5, je crois même, ouais. Et il assourdit, tous les sons sont assourdis. Ouais. Donc c'est vraiment je pense que c'est très très volontariste chez lui.
Mmh. Scène 6 qui n'est pas une série. Hein.
Et non.
C'est un film.
Bah, c'est pour ça que c'est bien.
Alors c'est maintenant le moment, non pas de sortir du bois, mais d'y rentrer.
Ok.
Parce qu'on a quand même un film qui passe plus de la moitié de son temps, soit à le filmer, soit à en parler de façon plus ou moins directe.
Donc tu vas nous parler de bois.
Ouais.
Peut-être les différentes sortes des espèces d'arbres, des choses comme ça.
Non, mais la forêt par extension. Mmh.
Tu connais la forêt, toi. Hein.
Ouais, ouais. C'est bientôt la saison, d'ailleurs.
Mmh. On sent que ça te démange. T'as envie de randonner, là. T'as envie de partir. Ouais. Non, mais je te connais. Au mois d'avril, il n'y a plus personne. Quoi. T'es déjà parti. T'es déjà dans les grands extérieurs.
C'est pour ça qu'on finit tout le temps assez tôt, en fait.
Oui, sachant que les gens ne savent pas que les gènes, à partir de février, sont tous enregistrés, en fait, puisque t'es déjà parti.
Alors les premières scènes, ce sont donc des scènes, comme tu le disais, de bois où Hamaguchi nous familiarise avec cette forêt. Je parlais tout à l'heure d'une caméra qui s'accorde à une temporalité ressentie dans ce milieu. Mais si on prend les personnages du père et de la fille, c'est à travers le regard qu'on identifie, par exemple, comme tu le disais tout à l'heure, les arbres qui composent la forêt. Le point d'eau des cerfs, le cadavre d'enfant, etc. C'est-à-dire qu'à travers ces deux intermédiaires, un rapport esthétique se noue entre nous et la forêt. Et ce rapport esthétique, il passe évidemment par une captation minutieuse de la matière, hein, les sons de l'humus émis par des pas humains, la faune et la flore, mais surtout tout ce qui relève du cycle de l'eau. Hein, on l'a un petit peu effleuré, elle se présente d'abord à nous sous forme de neige, puis une source d'eau, et ce même jusqu'à la vapeur des udon dans le restaurant, quand elle prépare les
soupes. Tu veux parler des nouilles ?
Ouais.
C'est ça les udon, hein. Je ne sais pas si tu es au courant.
Oui.
Ouais. C'est une nouille japonaise, mais...
Assez épaisse.
Assez épaisse, ouais, tout à fait.
C'est-à-dire que donc, on a dans le film des éléments naturels captés en tant que vie, y compris les arbres, même s'ils sont statiques, hein, parce que même au moment où Anna, elle sort d'une étable, on a un plan large où t'as une rangée d'arbres alignés, donc avec leurs cimes, qui se meuvent au gré du vent.
Alors qu'ils se meuvent donc légèrement. Hein.
Légèrement.
Oui. Non, j'insiste, parce qu'il ne faut pas que tu...
Non, non. Ouais. Et cette présence de vie, elle se renforce avec le bois pris comme matière, puisque comme l'eau, ce sont des éléments en interaction avec le quotidien des humains. C'est ce qu'on voit dans peut-être pour moi le plus beau plan du film, où tu as le haut-parleur du village qui annonce la disparition d'Anna, et tu as ce plan large sur le chalet de Takumi, Mayuzumi seul en extérieur, et la cheminée donc qui recrache le bois sous forme de fumée dans l'air. et qui happe le personnage de Mayuzumi comme si elle était un petit peu happée par l'environnement dans lequel elle se trouvait, tu vois. Avec une belle lumière de crépuscule.
Ouais, ouais, très belle lumière, ouais.
Alors, une fois qu'on considère ce diptyque forêt-nature comme personnage à part, parlons un peu musique. Musique et forêt, quel rapport, me diras-tu ? Eh bien...
ça ferait une très bonne thèse de fac, ça. Musique et forêt.
Ouais.
Eh ben, vas-y, commence là.
Eh ben, en souvenons-nous de la généalogie du film, on n'en a pas encore parlé. Eiko Ishibashi, la compositrice du film, bah, souhaitait à l'origine obtenir d'Amaguchi des images pour habiller ses concerts. Hein, c'est-à-dire qu'une partie de la musique qu'on entend dans le film lui préexistait. Elle avait sa vie propre, autonome, tout comme la nature d'ailleurs par rapport aux humains. C'est-à-dire que nature et humain coexistent dans un espace et une temporalité commune, mais de manière parallèle, a fortiori la nature qui n'a pas besoin de l'homme pour se pérenniser. Et donc pour revenir au film et poursuivre ce parallèle d'autonomie entre nature et musique, je propose qu'on s'écoute Amaguchi nous parler de la raison pour laquelle il a parfois cuté de façon abrupte la musique, notamment au début.
La musique se coupe dès qu'on voit la petite se promener dans les bois. Le thème écrit pour ce film était vraiment magnifique. Et je pense que c'était quelque chose qui susciterait une réaction très émotionnelle chez les gens. Mais en réalité, je n'ai pas une considération très positive de la musique en tant qu'élément qui manipulerait nos émotions dans les films. Du coup, j'ai réfléchi à la façon de séparer la relation entre la musique et l'image pour m'assurer qu'elles ne dépendent pas trop l'une de l'autre. Et c'est ainsi que m'est venue l'idée de la couper brusquement pour préserver sa beauté, mais créer également une certaine distance entre l'image et la musique. Et en ce sens, c'était ma façon de répondre à la musique.
Alors, maintien d'une distance entre musique et image, nous dit Amaguchi, il me semble quand même que la musique s'enroule non pas tant autour des émotions des personnages, mais autour de la forêt. Et ce qui m'oriente vers cette interprétation, c'est le dernier plan du film. Le dernier plan, c'est donc à peu près le même que celui du début, hein, des branches d'arbres filmées en travelling, mais cette fois de nuit, avec la même musique de début. En off, on a la respiration haletante de Takumi liée au sauvetage de sa fille, c'est-à-dire qu'ici, on a une disjonction entre d'un côté l'invariance, la stabilité de la nature, et de l'autre les émotions humaines. Et donc, le syllogisme est le suivant, autonomie de la nature, voire imperturbable par rapport aux humains, relative autonomie de la musique par rapport aux images, d'où le rapprochement musique et nature.
Oh là là, ouais. Bah, du coup, c'est plus utile d'écrire cette thèse, parce que tu as déjà tout donné, la conclusion. C'est dommage, parce que c'est un sujet... Non, non, bien vu, très bon raisonnement. Bon, bah, alors, il va falloir que je parle un tout petit peu, parce que tu as un tout petit peu effleuré, mais là, il y a quand même une grande absente de notre analyse à deux voix jusqu'ici. C'est la dénommée Anna. Mm. La petite fille.
Avec un H.
Avec un H, ouais. Pour l'instant, on n'en a pas parlé. C'est dommage parce que c'est le personnage central, c'est elle, en fait, le vrai. D'ailleurs, c'est le premier personnage qu'on voit dans le film. Elle est d'ailleurs immédiatement associée à la forêt, puisque nous avons le travelling tel que tu viens de le décrire, en pure contre-plongée, on pourrait dire, ou presque, ouais. Sur les cimes des arbres. Et puis, on a un cut et on a elle qui lève les yeux au ciel. Donc, ce qui laisse, pas forcément interpréter, mais éprouver, que c'était son point de vue à elle sur l'arbre, comme tu l'as un tout petit peu effleuré déjà. Donc, bon, personnage absolument important. Et je pense le personnage le plus singulier du film est celui qui vraiment fait monter en singularité le film. Donc il faut étudier ce qu'est Anna dans le film pour au bout du compte peut-être approcher un peu plus le secret de ce film qui se dérobe, comme souvent les grands films. Il y a quand même une première chose qui me frappe, moi, c'est qu'on a parlé de ce travelling tout à l'heure avec le père et la fille, donc on part sur des bases de grande entente entre le père et la fille. Elle est quand même sur ses épaules, c'est l'image presque d'Épinal. C'est une image qu'on aime tous d'ailleurs, le papa qui prend sa petite fille sur les épaules et qui lui montre des étoiles ou qui lui montre quelque chose. Bon, qui ne peut pas s'émouvoir de ça, honnêtement, sans aucune malice. Et puis en plus, voilà, ils regardent tous les deux dans le même sens, elle a appris, bon, transmission, j'ai tout dit. Donc on part là-dessus. Après, si on regarde le détail du film, une fois qu'on est parti sur ces bases-là, de grande connivence entre deux, tout le reste du film va à l'inverse de ça, quand on le regarde vraiment dans le détail. Tout à l'heure, j'ai parlé de cette scène où ils sont figés comme des arbres dans la cour de l'école, on va appeler ça comme ça. Elle commence, on est après la réunion, les deux de Plémode vont voir le maire dans sa voiture pour le saluer à l'amiable, parce qu'évidemment, il faut être bien avec le maire pour pouvoir avoir un compromis.
Et qui lui dit, on ne vous a pas épargné.
Voilà, on essaie un petit peu comme ça d'arrondir les angles. Et là-dessus, entre dans le plan la petite Anna. Elle
avec
entre dans
avec
le plan.
Avec des plumes pour le maire.
Elle surgit, voilà, elle a une plume. Elle a trouvé une plume. Alors, intéressant cette plume, c'est une plume de faon,
pas de faisan.
Le faon ayant assez peu de plumes. Pas à ma connaissance en fait. De faisan, effectivement. Pourtant, je suis meilleur en animal qu'en plante, a priori. En fait, je suis bon en nouilles et en animal. C'est mes deux domaines d'expertise. Elle rentre dans le plan, etc. Donc elle surgit. Elle parle avec le maire. On sent qu'elle aime bien le maire d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait déjà une scène entre eux. Et lui dit qu'on peut jouer du clavecin avec cette plume. Ce qui est beau aussi comme continuité, c'est la continuité entre la nature et l'art. On pourrait gloser des heures. Bon, bref, elle rentre dans le plan. Et alors après, t'as une espèce de. Les deux vont plutôt s'approcher de Takumi parce qu'ils veulent lui demander son contact. Et donc on voit les deux s'éloigner vers Takumi. Et à ce moment-là, on a un plan qui est le point de vue de la petite, en fait. Parce qu'elle, elle est maintenant hors champ, mais elle est dans l'angle. Elle regarde. Et après, on aura un cut à 180 qui nous montre que la petite est en train de suivre la scène qui est en train de se jouer. Et la scène qui est en train de se jouer, c'est un petit peu à l'image de ce que je disais tout à l'heure sur quand ils fument une clope ensemble. C'est déjà une scène de... On prend langue, comme on dit chez les libéraux. On va commencer à discuter, quoi. On va faire un gentleman agreement, on va trouver des compromis, on trouvera nos intérêts communs, comme ils ont dit pendant la réunion, évidemment. Là, c'est toujours le grand truc des dominants, c'est de mettre en avant nos intérêts communs, bien sûr, alors qu'ils s'empressent de piétiner le commun. La petite fille, à ce moment-là, elle est silencieuse, elle est un peu à part, d'ailleurs. Elle n'est pas du côté de son père, ils ne se touchent pas. D'ailleurs, ils se touchent très peu dans le film. La seule fois, au fait, finalement, on les voit en interaction l'un avec l'autre... C'est quand elle est sur ses épaules.
Oui, et puis à un moment donné, il y a une scène aussi de dîner où elle lui donne à manger avec un petit lapin. Et puis lui, il est en train de dessiner.
Ouais.
Et il lui dit « tu me déranges ». Alors... Et là, elle l'insulte, elle lui dit « tu pues ».
Voilà, tout simplement. C'est la seule scène. On les voit très peu chez eux, en fait, tous les deux. Très, très peu. Alors qu'en fait, c'est quand même plutôt nos deux héros, donc on devrait les voir un peu plus souvent à la maison. La seule fois on les voit en scène d'intimité tous les deux, parce que la fois précédente, il y avait un dîner, il y avait du monde, donc en fait, voilà. Là, ils sont tous les deux. On s'attendrait, évidemment, à créer de nouveau une sorte de complicité entre eux. En plus, ils habitent que tous les deux, parce que la mère est absente, j'y reviendrai peut-être. Pas du tout. D'abord, ils ne regardent pas dans le même sens, ils ne sont pas occupés à la même chose, et elle finit par lui dire tu pues. Bon, c'est une espèce d'insulte comme ça d'enfant, un peu bon enfant. Mais quand même. On a perdu une occasion de voir de l'harmonie entre eux. Ça commence à me troubler et tout ça. Moi, je vois à ce moment-là, et de plus en plus, Anna comme elle étant le vrai personnage de rupture avec la compromission.
D'ailleurs, elle n'a pas d'amis, elle.
Elle n'a pas d'amis.
On ne la voit jamais avec des
Tout à fait. Au début de la réunion, elle est à l'extérieur. Il y a un plan sur elle. Hein. Amaguchi, quand même, a voulu faire ce plan. Elle est à l'extérieur. Elle regarde à travers la porte vitrée. L'intérieur de la réunion, et elle s'en va. Et d'ailleurs, pendant la réunion, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle se baladera dans la forêt. Elle est vraiment la figure du refus total. Pas Takumi. Takumi, il est toujours dedans, lui. Il est dans la réunion. Il parle dans la réunion. Il parle avec ses gens. Et elle est toujours en recul, comme, je dirais, ayant une certaine réprobation muette, parce qu'elle, c'est une vraie muette. Takumi, on a dit tout à l'heure qu'il était un bloc de silence. Mais en fait, il parle beaucoup, finalement. Il parle beaucoup dans les coordonnées d'Amaguchi. Mais il parle beaucoup. Elle ne parle jamais. Et de fait, comme tu l'as très bien dit, non seulement elle n'est pas en interaction avec son père très souvent, il ne se parle pratiquement jamais, il se rate en permanence, mais en plus, elle est en interaction avec personne. Donc, elle est un peu à part. Elle est dans son truc à elle. Mais pour revenir à l'opposition qu'il pourrait y avoir entre Takumi et la petite, il faudrait revenir à un truc qui est quand même tout à fait étonnant et dissonant par rapport à ce qu'on a disposé depuis le début comme système symbolique général du film. C'est le début. Le début, on a donc les arbres, puis on a Anna, ok. Avec une belle scène de silence, hein. La forêt, pas beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui vient après ? Comment Takumi, notre homme des montagnes, le parangon de calme, débarque dans le film ? Il débarque avec une tronçonneuse.
Mmh, oui.
Tiens. Donc nous, ça fait 8 heures là qu'on est en train de raconter que d'un côté, il y a la ville qui fait du bruit et de l'autre côté, il y a les montagnards silencieux et Takumi en est le chef symbolique, le totem. Or, il arrive dans le film avec le bruit sans doute le plus violent du film, à savoir la tronçonneuse. Non content d'arriver comme ça, t'as un plan fou en fait, qui suit juste après, parce que là, ça dépasse un plan large. C'est un plan en légère contre-plongée sur lui, en train d'attaquer le bois à la tronçonneuse, qui est quand même un geste un peu violent. T'as la lame de tronçonneuse en plein dans la gueule, elle est au premier plan, et au deuxième plan, il y a lui.
Ouais.
Quand tu veux faire rentrer dans un film un serial killer, en général, tu fais ça.
Ouais, c'est ça.
Tout de suite, le mec qui a marqué qu'il est monstrueux. Takumi n'est pas un monstre. Il n'est peut-être pas exactement celui qu'on a peint depuis le début, surtout avec cette espèce de premier plan. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire, en fait ? Tout à l'heure, j'ai dit l'harmonie du bois, tout ça. Bon, ok, je maintiens ce que j'ai dit. Mais il est en train de rompre aussi. Et je disais tout à l'heure que la partie 2 cassait le film en deux et cassait l'harmonie villageoise. Mais quel est celui qui est montré en train de couper quelque chose en deux, le premier? C'est lui. Et après, non content de l'avoir fait avec la tronçonneuse, il prend une hache, et avec un geste sublime, il va fendre la bûche. Il est tout de suite présenté comme physiquement un personnage de la division. Non mais, je veux dire, je sais pas quoi en déduire. J'en déduis un truc très, qui est tout à fait à la gloire d'Amaguchi, à minima, avant trop d'aller dans le sens. C'est que tu vois une même image, tu peux la lire de deux façons différentes. Tout à l'heure, j'ai lu la scène de H comme vraiment la figure absolue de l'harmonie. Je peux très bien la lire à l'inverse. L'homme par qui la séparation arrive, quoi. Alors,
ouais, et puis surtout, on n'en a pas encore parlé, mais la fin, c'est quand même lui qui étrangle Takahashi.
Ah oui, alors là, il faudrait voir aussi ce que c'est que cette fin, quoi. Bon, on va y venir, on va y venir. Évidemment, on ne pourra pas y couper. Parce que cette fin, évidemment, tous ceux qui ont vu le film sont un peu emmerdés avec la fin. Genre, putain, merde, j'ai pas compris tout.
Mais, qu'est-ce que les c'est gens que veulent ce savoir.
Truc. Oui, ils veulent savoir. Bon, voilà. Ok, on va essayer de dire des trucs. Parce que on ne fuit jamais devant la difficulté, à la gêne occasionnée. Mm. On n'a jamais peur. On dit souvent plein de conneries, mais au moins, on n'a pas peur de les dire. Non, si je reviens à Anna, effectivement, tu disais, elle n'a pas d'interaction. Il y a quand même un dernier truc troublant de père à fille. Il l'oublie.
Il l'oublie à chaque fois.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce papa qu'oublie sa fille tous les jours? Et que c'est presque un gag. Mais en fait, oui, on le voit comme un gag. En fait, on met ça sur le compte du fait qu'il est un peu lunaire, le type. Il est un peu dans les bois, quoi.
Avec presque même, je trouve, un geste de direction d'acteur un peu maladroit. Tu sais, il se prend la tête,
oui,
comme ça à chaque
vrai,
fois.
Oui, c'est vrai. Ouais. Oh, oui, c'est vrai que c'est pas forcément le truc le mieux joué du film. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, il oublie sa fille, quoi. Et alors, non content d'oublier sa fille, il débarque à l'école et à chaque fois, sa fille ne l'a pas attendu. Non mais, pardon, hein, je ne sais pas ce qu'on est en train de décrire. Ouais, là, on est en train de décrire une famille dysfonctionnelle. Bon. Et alors après, il se passe un truc. Il va la chercher dans les bois, donc, à deux reprises. La deuxième fois, il ne la retrouvera pas, en tout cas pas dans un premier temps. Et la première fois, il la retrouve. Bon, regardons comment ça se passe, ce truc. Ça m'a fait tiquer tout de suite. T'as un long travelling, en fait, sur lui qui est en train de marcher. Voilà, il marchait dans les bois, on l'a dit, latéral, ouais. Etc. Dans la continuité de ce travelling, à un moment, le premier plan est un peu escamote l'arrière-plan parce qu'on se retrouve presque devant un talus. Ouais. Il y a un talus qui prend la place du plan, en fait. Comme ça arrive dans les travelling, tu fais avec les aspérités du terrain, quoi. Bon, tout ça est évidemment programmé. Et puis,
clair.
Le travelling continue. Il y a un moment quand même, le talus disparaît.
Et puis là,
donc de nouveau, l'arrière-plan se dégage.
Et la réapparition, mais des deux.
Les deux. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu le moment où ils se sont dit « Ah oh, bah alors, t'étais là, oh bah dis donc, t'es encore parti. Oui, papa, mais tu sais, j'aime bien la forêt. » Bah, grand dialogue que je viens de faire, là, en impro, comme ça, direct. Non, mais c'est bizarre, tu vois. L'apparition d'Anna à ce moment-là, c'est une apparition, pardon, mais un peu fantastique. Je suis désolé de lâcher le grand mot tout de suite, hein, mais c'est vraiment une apparition bizarre, très très bizarre. Et tout est bizarre, en fait, dans ce moment-là. Parce qu'en fait, si on voulait être un peu rationnel, réaliste, narratif, il oublie d'aller chercher à l'école. Il arrive, elle est déjà partie. Ok. Il la retrouve dans la forêt. Bon, déjà, il a pris sa bagnole pour aller à la forêt. Ça veut dire qu'elle est déjà loin. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, elle rentre à la maison toute seule. Oui, mais on nous raconte qu'elle a laissé son cartable à l'école. Ouais. Ça marche pas, en fait. Ça va pas. Rien ne va. En fait, d'un point de vue réaliste, rien ne va. Et on ne les verra jamais retrouver la bagnole. Tu vois, genre, c'est bon, je suis venu te rechercher. On retrouve la bagnole et on rentre à la maison. Il y a un truc qui est spatialement aberrant dans cette affaire. Narrativement et spatialement aberrant. Et c'est le personnage d'Anna qui entraîne ça, parce qu'en fait, si tu regardes tous ses déplacements dans le film, on ne comprend jamais spatialement comment elle se meut et dans quel espace. Elle a son espace à elle. À un moment, on la retrouve dans une ferme, elle rentre dans la ferme.
Elle donne à manger à des bœufs,
ouais,
à des bœufs.
Personne la voit. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est pas dans le même film que les autres. Voilà. Il y a le film Anna, puis il y a le film des autres, et c'est pas le même. Et elle est dans son truc, elle, avec son propre système de déplacement, de réflexes spatiaux, de signification. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que son espace à elle est un espace qui n'est pas humain, qui n'est pas socialisé, qui est asocialisé, et qui serait un espace forêt, c'est-à-dire que c'est une créature forêt. Il y a un moment où elle suit, alors que nous on était sur le film d'ailleurs de promotion de La Réunion, Cut, on se retrouve avec elle, et c'est des traces de cerf.
Elle suit la trace des cerfs.
Elle suit la trace des cerfs. En fait, elle est anti-narrative parce qu'elle n'a jamais d'intention. Elle n'a jamais de destination, elle n'a jamais de trajectoire. Alors c'est ça la narration, c'est un point A et un point B, il faut y aller, quoi. J'ai des désirs contrariés plus ou moins, ça fera une histoire. Elle, en fait, elle se laisse porter par les suggestions de la forêt et par les animaux. Trace de cerf, hop, ça sera mon chemin. Et puis à un moment, il y a un aigle, je crois que c'est un aigle.
Oui.
Ouais.
Ou une buse.
Ouais, c'est ça, c'est un rapace en tout cas. Très beau, majestueux, dans l'air comme ça. Et ben elle suit l'oiseau. Donc on voit bien que ces déambulations dans la forêt, c'est je me laisse porter par la forêt elle-même et par ses suggestions, alors que les autres se laissent porter par plein d'autres motivations. Donc elle est vraiment dans autre chose. On pourrait dire qu'à ce moment-là, le film change de nature avec Anna. Il y a une rupture épistémologique, un truc, quoi, quand on est avec elle. Alors, je pourrais dire que c'est un saut dans le fantastique, le saut dans l'étrangeté, peut-être dans le merveilleux, des choses comme ça.
Sachant qu'en toile de fond, on voit jamais la mer. On suppose que la mer est morte.
Ah oui, oui, on suppose qu'elle est morte.
Elle a disparu. On la voit deux fois sur une photo de famille.
Ouais, il faudra faire un sort aussi avec ça. Tu me frappes, on a vraiment des dossiers. La mer, bon, venons à la fin d'abord. Parce que la fin, quand Anna disparaît, à ce moment-là, le film prend lui-même le sillage d'Anna. Un espèce de sillage à contrario, puisque précisément, elle a disparu. Mais c'est la première fois qu'on s'enquiert d'elle. D'habitude, les autres personnages ne réagissent pas du tout par rapport à elle, et elle ne réagit pas du tout par rapport au personnage. Et là, comme elle a disparu, eh bien, on va essayer de retrouver sa trace. Et c'est compliqué, puisque précisément, il faut ressaisir les trajectoires d'Anna, et elles ne sont pas ressaisissables. Elles ne sont pas rationnelles. En fait, Anna lance un jeu de piste à son père. « Vas-y, retrouve-moi maintenant. Retrouve-moi dans la forêt. J'ai quelque chose, j'ai un message à t'envoyer. » J'ai des signes à t'envoyer. Et donc, une fois que tu m'auras retrouvé, il se passe quoi? Il se passe ce truc totalement mental, lynchien, fantasmatique, fantasmagorique, tout ce qu'on veut, où on commence à voir deux cerfs avec Anna, un gros plan sur un cerf qui a pris une balle dans le flanc. Déjà, c'est une image absurde. C'est une drôle de paix entre ces deux animaux et cette jeune fille. Et qu'est-ce qu'elle fait là? En pleine nuit? Bon. Cut, il n'y a plus que Anna qui est allongée.
Le cerf est vivant, je dis entre parenthèses, parce qu'il bouge des oreilles.
Ouais, il est vivant, mais blessé. Dans le cut, il a disparu. Et on retrouve Anna couchée et qui a du sang sous le nez. On pense qu'elle est morte. En fait, on peut supposer qu'elle ne l'est pas. Et que son père va la sauver, c'est pour ça qu'il la ramène, etc. Bon, donc là, on a fait un saut, là. On a complètement changé de régime de cinéma. Et donc là, il faut faire de la signification. La signification, c'est des associations que Anna nous invite à faire, qui sont des associations symboliques. C'est-à-dire, il y a eu un coup de feu tout à l'heure, on a supposé que c'était des chasseurs qui tiraient un cerf. Et oui, de fait, c'est le cerf qui est blessé, mais c'est moi qui suis blessé aussi, puisque j'ai du sang sous les narines. Le sang du cerf, c'est mon sang. Donc Anna, moi, je suis la forêt, je suis un animal. Je vais un peu trop vite, mais globalement...
Elle est reliée, en tout cas.
Elle est plus que reliée, il y a presque une identité. Elle est engagée dans un devenir animal, comme on dirait chez Deleuze, quoi. Et son devenir animal est consommé, et elle invite son père à la rejoindre dans ce truc-là. Et c'est ce qu'il fait. Alors, il a enfin compris où elle était, c'est comme si, voilà, il y avait une perception. Donc là, vraiment, le film change complètement de nature. Alors, on pourrait très bien se dire que l'interprétation que fait le père à ce moment-là du message que lui a envoyé Anna, c'est quoi? C'est qu'il faut tuer l'autre.
Alors moi j'ai une petite interprétation par rapport à ça.
Oui, tu peux. Tous ceux qui ont vu le film font ça depuis une semaine.
Ouais, ouais. En fait, tu sais, il y a la conversation dans la voiture entre Mayuzumi et Takahashi avec Takumi. Et Takumi les renseigne en fait en leur disant quel est l'état de dangerosité d'un cerf par rapport aux humains. Et il leur dit que c'est souvent quand les cerfs sont blessés qu'ils attaquent les humains. Et moi je me suis demandé pourquoi Takumi attaquait Takahashi à ce moment-là. Bah parce que Takahashi veut peut-être aller récupérer Anna. Et donc là, il se dit, s'il intervient, il met ma fille en danger. Et donc, comme j'ai perdu ma femme déjà, je vais l'étrangler pour pas perdre ma fille.
Ouais, mais si je peux me permettre, j'ai l'impression que tu es encore dans le régime antérieur du film. Parce que là, tu présupposes qu'ils ont vraiment vu, tous les deux, un cerf avec la fille, etc. Ouais. On est ailleurs, on est dans autre chose. Moi, je pense qu'à ce moment-là, on est dans une espèce de message mental de la fille au père qui passe par des images, qui apparaissent, qui nous apparaissent. Enfin, en tout cas, une fois qu'il s'est passé ce qui s'est passé, Takumi tue Takahashi. Donc, en fait, c'est comme ça qu'il interprète le message d'Anna, c'est qu'il faut tuer ce monsieur.
Il le tue, sachant qu'il se relève après.
Ouais, mais qu'il se réécroule.
Ouais, il s'écroule.
On peut supposer qu'il est mort. Allez, admettons qu'il est mort. En tout cas, il est vraiment mis hors d'état de nuire. Donc là, on retombe un peu sur nos pattes. C'est-à-dire que la fille aurait envoyé à son père le message comme quoi tu es en train de te compromettre avec ces gens. Tu passes l'après-midi avec eux. Moi, je suis dans la forêt. Comme d'habitude, on n'est pas du tout dans le même espace tous les deux. Tu es en train de compromettre le village. Ils vont t'avoir. Il ne faut pas pactiser avec ces gens. C'est la rupture absolue. Il faut les tuer. Il n'y a pas de compromis possible. Ça pourrait être une espèce de première interprétation des choses. Genre, Anna aurait rappelé son père à la radicalité nécessaire contre des gens qui sont des forces de mort.
Alors, le titre du film, c'est juste une blague, alors si on va dans ce sens-là.
Pour l'instant, le titre du film, on pourrait très bien dire que ceux qui incarnent le mal, ce serait Playmode. Voilà. Ce sont les oiseaux de malheur. Donc ils apportent le malheur et donc ils porteraient en eux-mêmes le mal. Mais est-ce que le mal existe ? C'est encore une autre chose. Moi, je crois quand même que Anna, elle nous a fait passer du narratif, d'un film un peu réaliste, au conte. En fait, Anna est une figure de conte. On est dans la forêt, on est avec les animaux, on est dans l'immémorial, c'est une figure de conte. C'est le petit chaperon rouge, enfin on est plus là-dedans avec Anna. Quoi. Donc en fait, je pense que notre explication un peu bassement politico-terrienne vaut encore, mais elle est insuffisante. À ce moment-là, vers la fin, et Anna nous invite à monter un peu en puissance métaphysique dans l'analyse. C'est-à-dire que c'est plus simplement, politiquement, il y a des oiseaux de mort là, qui viennent nous emmerder avec le glamping, il faut les tuer. Je pense que ça incarne autre chose à ce moment-là. J'en veux pour preuve... Il y a deux éléments. Justement, tu parlais de la mère. C'est quand même important, cette figure de mère qui n'aura aucun effet narratif. On ne saura jamais si elle est partie, si elle est morte. On suppose qu'elle est morte quand même. Mais il n'en est jamais question. Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de résilience. Ce n'est pas du tout un élément narratif, c'est un élément symbolique. Et on la voit dans les deux parties, dans deux photos. En fait, la mère n'a qu'un mode de présence, si je puis dire, paradoxalement, c'est son absence. La mère, c'est celle qui n'est pas là. Or, la mère, c'est l'origine. La mère, pour moi, elle incarne ça. L'absence de la mère, c'est quelque chose a toujours été déjà perdu. On rentre à un autre degré de mélancolie. Et quelle est l'expérience de la perte ? C'est le temps lui-même, en fait. Je pense que c'est le temps qui passe, qui est inconsolable. Il y a, de toute façon, il y a quelque chose qui s'est... Il y a une harmonie qui s'est perdue d'entrée. Donc, à ce moment-là, on n'est plus... Comment dire ? L'affrontement, il n'est plus entre des hommes et d'autres hommes. Des hommes plutôt gentils et des hommes citadins méchants. On est entre l'être... L'être, même plus la nature, je dirais l'être, et l'espèce humaine qui est fondamentalement une espèce qui avance. C'est notre malédiction à nous les humains, c'est notre excellence et notre malédiction. On avance. On a une histoire, quoi. Donc plus on avance, plus on perd. Nous sommes profondément une espèce qui produit de la perte. Et je pense que c'est ça dont Anna ne se remet pas. Peut-être que je me gourre dans ce que je suis en train de dire. Mon interprétation, elle est ce qu'elle est, elle est réversible.
De toute façon, Amaguchi ne nous laisse pas beaucoup de place pour être objectif.
Ouais, tout à fait. Mais précisément parce qu'il nous laisse plein de place. Il nous laisse plein de place d'interprétation. Et donc, du coup, on peut tout dire. Moi, ce qui m'intéresse au bout du compte, c'est que il est évident que le film nous invite à ce régime-là d'interprétation. Tu vois, c'est ça que je trouve très fort dans le film. C'est comment il arrive à un moment à faire prendre du volume à quelque chose. Et si tu reprends, tu vois, les plans dont j'ai remarqué la récurrence de la partie 1 à la partie 3, à savoir ce plan sur la caméra qui est dans la bagnole, siège arrière, et on voit la route qui, en travelling arrière, bon... Mais c'est typiquement le plan de la perte, ça. C'est, on avance et on laisse derrière soi plein de choses. Ben, les humains, ils auront laissé derrière eux plein de choses pour avancer parfois vers des choses tout à fait formidables et puis des choses parfois horribles. Donc la malédiction, au bout du compte, c'est une malédiction qui pèse sur l'humanité elle-même, quoi. Et c'est pour ça que le dernier combat qui clôt le film entre le père et Takahashi... Mmh. Pour moi, c'est vraiment un duel primitif entre les humains. Il faut que l'humanité elle-même disparaisse d'une certaine manière. Et le paradoxe, c'est un humain qui fait disparaître un humain. Donc en fait, on n'a jamais fini. Et que pour conjurer la violence que portent en eux les hommes, eh bien, notre ami Takumi commet un crime. Bon, bah donc on s'en sort jamais, parce que c'est ça la malédiction de l'espèce, on n'y arrivera jamais, et tous les gestes qu'on fait pour s'en sortir sont des gestes de nouveau, c'est une pièce qu'on remet dans la machine du mal. Alors le mal n'existe pas, c'est un titre antifrastique, le mal existe. Moi je pense que, j'entendais un critique dire, non mais bon, il est évident que c'est bien qu'Amaguchi il est intelligent, c'est un cinéaste moderne, donc il ne croit pas au mal. Comme si c'était évident que nous les tarvenus là, qui avons tué tous les dieux et qui n'avons plus aucun sens du sacré, il va sans dire que le mal n'existe pas. Mais depuis quand on a décrété que le mal n'existait pas ? Moi, je sais pas. Moi, je
connais
que le mal
existe. Je connais pas le critique en question. Mais
moi non plus, je le citerai pas.
Mais à son corps défendant, Amaguchi, il dit dans les interviews que c'est quand il s'est rendu dans la forêt, dans la nature, qu'il a eu l'idée du titre.
Oui.
Et que, oui. En fait, le mal n'existe pas en référence à la nature.
Oui, bien sûr. Dans l'espace naturel, pré-humain, le mal n'existe pas. Mm. Et puis après, il y a un mal qui arrive et c'est l'humain. Mm. Moi, bon, j'aime bien les humains, c'est pas le problème. Je suis pas en train de professer que nous sommes d'une race profondément maudite. Mais je pense que le film trame un peu ça. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que quand, une fois qu'il s'est battu avec l'autre et qu'il l'a, on va dire, tué, il prend sa fille pour la sauver. Et tous les deux disparaissent dans l'arrière-plan. et s'effacent et s'éteignent comme une espèce de fading. C'est l'extinction de l'espèce humaine.
Ils sont absorbés par la brume. Ouais.
Et voilà, et ça serait peut-être ça le plan désirable. Et le plan que cherchait le film depuis le début, c'est un plan sans humain, avec simplement de la nature maintenant dedans. Ils se sont fondus dedans. Elle est devenue un cerf, lui aussi par son entremise, et maintenant ils peuvent rejoindre une espèce de nature restituée, non pas dans sa virginité originelle, mais en tout cas dans une phase d'avant le mal, c'est-à-dire d'avant l'humanité. Le mal, encore une fois, étant pas du tout le fait que les hommes sont méchants, mais le fait que, comment dire, ils sont le principe de la variabilité. Finalement, à la fin de ce film, tout ce qui s'est joué dans la deuxième partie, on s'en fout. Le problème Plémode est complètement passé à la trappe dans la dernière demi-heure. Ça n'est plus du tout le sujet. Et c'est comme si Anna, elle-même, nous avait dit « c'est pas trop ça le sujet, en fait ». Vous êtes en train de focaliser là-dessus, mais le sujet, il est beaucoup plus fondamental que ça. Donc moi, je vais vous entraîner maintenant dans un autre film. Et il n'y a plus qu'à regarder les deux, la première et la troisième. Et je reviendrai à mon truc de départ. De la première à la troisième, il y a une redite et il y a des variations. Et c'est ça qui compte, en fait. Le film est un diptyque pictural ou une espèce d'installation vidéo, tu vois, qui met en regard deux parties comme ça et qui, en fait, te fait éprouver ce qui est le phénomène humain par excellence qui s'appelle la variabilité. C'est que nous n'arrêtons pas, comme disait un peu Jacques Derrida, pardon d'être cuistre, nous n'arrêtons pas de différer. Et en différant, nous n'arrêtons pas de piétiner les choses, de perdre des choses, de laisser pour mortes des choses derrière nous. Et c'est ça qui est venu conjurer Anna, mais dans un geste métaphysique complètement fou, dans un geste évidemment vain, qui n'appelle pas de solution. C'est pour ça que le film ne pouvait se terminer que par cette espèce de poussée métaphysico-fantastique. Parce que ce qu'il avait à résoudre, à ce moment-là, c'était plus une histoire de connard qui vient de la ville. C'était quelque chose de bien plus fondamental. Bon, peut-être que j'en fais un peu trop, mais il me semble que c'est pas non plus surglosé un film qui, quand même, dans sa dernière demi-heure, nous invite à monter vers ce genre de choses.
Et donc, du coup, le dernier plan, il irait dans ce sens-là, de cette résolution ?
Moi, j'aime bien ce que t'en as dit tout à l'heure. J'ai pas grand-chose à ajouter, parce que toi, t'en as fait un commentaire très formel avec la musique, etc. Peut-être que si moi, je le rabats sur mathématiques, je pourrais tenter un truc du genre, sans être très convaincu par moi-même, je pourrais tenter un truc du genre. Nous avons de nouveau un plan sans humain. Nous avons de nouveau un plan sans humain.
Mais c'est cette respiration.
Nous avons un plan sans humain. Il reste quoi des hommes après leur extinction ? Il reste un souffle. Voilà. Alors peut-être que là, il y a un truc... Quand même, les humains, on va quand même les garder. Mais peut-être que c'est une espèce à bout de souffle, tu vois, si je voulais vraiment faire le malin. Peut-être qu'on est vers la fin, là. On n'est pas loin de notre extinction, nous-mêmes. Je pense qu'on est plutôt dans cette ambiance-là.
Bon, ben, on retrouve le public en fin d'émission. Hein.
Ouais. Oui.
On commence avec Léo.
Et non pas les bas. Et voilà.
Voilà.
Bah oui. Je pense que tu as trouvé ton maître en jeu de mots. Il est là, il est en face de toi. Et il a 10 ans de moins que toi.
Léo, qui est un habitué de la partie interactive.
Oui, souvent pertinent, Léo, on a remarqué. Ouais, hein. Ouais. Oh là là, Léo, il y a du niveau. Ouais.
Alors, il nous dit, quand les deux citadins viennent présenter leur clip publicitaire, Mayuzumi et Takahashi, quand les deux ils viennent présenter le clip, Hamaguchi coupe abruptement vers ses propres plans de la nature. Donc c'est en fait ce qu'on voit avec Anna, qui se balade dans la nature, qui suit la trace des cerfs.
Oui, qu'on a décrit tout à l'heure. Ouais.
Il semble suggérer donc Hamaguchi... que la nature est réduite à un argument de vente pour les deux citadins, tandis que lui-même prétend la représenter dans toute sa complexité. Peut-on y voir un manque de modestie de la part d'Hamaguchi ou une posture de supériorité ? Un réalisateur, nous dit-il, comme Radu Jude, aurait laissé ce clip promotionnel dans sa totalité, montrant bien que les cinéastes n'ont pas le monopole sur les images et qu'il en existe différents régimes.
Ouais, c'est vraiment passionnant, je trouve, parce que peut-être qu'en une question et quelques lignes, Léo a réussi à peut-être résumer ce qui seraient les deux grandes familles d'artistes. Bon, évidemment, il n'y a pas deux familles d'artistes, mais pour le cinéma, effectivement, je pense qu'il y a une lignée de cinéastes qui... Alors, par exemple, Godard, et Radu Jude est peut-être le cinéaste vivant le plus proche de Godard, le pauvre Jean-Luc ayant assez peu de postérité, d'ailleurs, en général, mais... chez Radu Jude, c'est évident. Et l'idée, c'est que voilà, nous vivons dans un bain d'images et nous allons les mettre à plat dans un geste presque pop. Il y a quelque chose de pop art aussi chez Jude. Et donc, effectivement, on va les livrer telles quelles et on va les agencer, on va un peu les monter quand même. On va les mettre en situation ou en relation les unes avec les autres. On va créer du montage, mais on va les laisser telles quelles et on va faire avec. Quoi. On ne va pas vouloir effectivement les surplomber ou leur opposer des contre-images. Bon, moi j'aime beaucoup cette tendance-là, c'est très intéressant et on aime beaucoup tous les deux le dernier film de Jude.
N'attendez pas trop de la fin du monde.
Et évidemment Godard. Je suis quand même un peu content qu'il existe une deuxième modalité de cinéma qui consisterait à produire des contre-images, justement, à ce que le film soit une espèce de contre-allée par rapport à la circulation ordinaire des images, dans leur profusion, dans leur hétérogénéité et dans leur impureté en général. Et c'est précisément de faire contrepoint. C'est pas mal que l'art maintienne cette idée que l'espace du film ou l'espace du livre ou l'espace du tableau soit un espace à part, alors qui évidemment sera complètement ancré dans la vie, mais qui justement voudra faire coupure par rapport au tout venant, en l'occurrence, des images, puisqu'on parle de cinéma. Et effectivement, Hamaguchi, là, dans le geste que tu as très très bien décrit, Léo, et qu'on avait nous-mêmes repéré, bon, ben, marque son territoire en disant « Non, non, mais moi, je ne vais même pas vous le montrer, le film de promo, moi, je vais tout de suite aller dans la forêt avec Anna, c'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'intéresse. Ben, » j'aime bien qu'il fasse ça. Moi, j'y vois pas de la prétention, j'y vois un ressort de la création artistique qui a fait les plus belles heures de l'art, hein. Je veux dire, c'est, on va essayer, là où on a eu un film promo qui aurait piétiné le réel, qui aurait monté ça n'importe comment, avec une voix off, avec un texte bidon, plein d'éléments de langage, avec plein de musique, bon, bah nous, on va essayer pour une fois d'offrir au spectateur une plage où il puisse regarder une forêt, quoi, et avoir un peu moins de bruit. Je pense pas qu'il faille appeler ça prétention.
Ouais, et puis ça va dans le sens de ce que tu disais en fin de critique, par rapport au personnage de Anna.
Bah oui.
C'est hyper important, en fait, de développer tout l'aspect autour de ce personnage.
C'est sûr que chez Jude, on verra pas... Chez Radu Jude, et encore une fois, je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour lui, on verra pas de personnage comme Anna. Il n'y a pas de séparatisme. C'est qu'on fait avec ce qu'il y a chez lui.
Ouais, c'est un personnage sécessionniste, en fait, Anna.
Ouais, complètement. Mais après, le sécessionnisme d'Hamaguchi est aussi une espèce de raccordage avec la vie. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas parce qu'on fait sécession avec le régime impur des images qu'on fait sécession tout court. Au contraire, il s'agit bien de retrouver quelque chose, de restaurer un rapport au monde. Donc, bon, merci à Hamaguchi de nous permettre ça.
Allez, on conclut avec Octave. Pourquoi Hamaguchi fait des choix de mise en scène aussi lourds et empesés? On se retrouve pour la seconde fois dans une formule poussive et tellurique, comme dans Loveless de Zvia Genstev. Alors, je prononce pas très bien, mais...
Ouais, tu m'as l'air moins à l'aise en russe qu'en japonais.
Ouais. Ouais. Avec son lot d'incompréhension qui bouche des facilités scénaristiques, nous dit Octave.
Mais je trouve bizarre et contradictoire ce que tu nous dis, Octave, avec toute l'amitié que j'ai pour toi, que je ne connais pas. Si c'était aussi lourdeau et démonstratif que du Zvia Genstev, parce que moi aussi, j'arrive jamais à prononcer ce cinéaste dont j'ai vu les films. Si c'était aussi lourd et démonstratif, parce que de fait, ça l'est chez lui, ben, précisément, il n'y aurait pas de zone d'incompréhension. Or, il y a plein de zones d'incompréhension dans « Le mal n'existe pas », à commencer par son titre, qui, à mon avis, est un titre un peu piégeux. C'est du premier degré et demi. Et puis, on a vu à quel point il y avait plein d'angles morts du récit, de la narration. Donc, ce que tu appelles les invraisemblances, au contraire, je pense que c'est des trouées dans un récit qui était sans doute par trop organisé. Et je crois qu'on a commencé par là. On a commencé par dire à quel point il y avait une espèce de devanture schématique et binaire du film, et qu'en fait, dans son détail, eh ben, il y avait en permanence des lignes de fuite et des plans dont on a pu faire une interprétation, puis son contraire, hein, le fameux plan de fendage de bois. Donc non, non, je crois que moi, c'est ça qui m'a passionné dans le film, c'est que je me suis très vite rendu compte qu'il était travaillé souterrainement et subtilement par des forces beaucoup plus complexes que son organisation générale un tout petit peu schématique.
Merci François pour cette analyse.
Oui.
Qui envoie du bois.
Mais tu l'as pas déjà faite, ça envoie du bois, non?
Non, je t'ai demandé de quel bois tu te chauffais.
Ah ouais, ouais, d'accord. Je pense qu'il n'y a plus d'expression avec bois. Non, il me semble, on a...
Il y en a peut-être une, mais...
Si, il y a un moment, j'ai dit un truc que je trouvais passionnant et je t'ai vu un peu rester de bois. Ça se dit, ça, rester de bois?
De marbre.
Il y a de marbre, surtout, ouais. Après, bon, t'avais peut-être, vu ce que t'as fait hier soir, t'avais peut-être aussi la gueule de bois. J'en ai plus, hein. Voilà, je crois que j'ai...
Hier soir, c'était vendredi soir.
C'était vendredi, bah oui, donc forcément, oui, tu dois être un tout petit peu gueule de bois. Ouais.
Prochaine gêne, moi j'ai repéré le documentaire de Steve McQueen.
Waouh, j'espérais que tu l'aies pas repéré, parce que quand j'ai vu la durée...
4h30.
Oh, 4h30.
Occupied City, ouais.
En plus, ouais, c'est vrai, je l'avais repéré, ça serait intéressant. Après, je suis pas un grand fan de Steve McQueen, moi.
C'est la première fois qu'il fait un documentaire, non, je crois.
J'ai l'impression, ouais. Je suis pas un grand spécialiste, mais oui, oui. Ça parle de quoi déjà? Rappelle-moi, le sujet était un peu aguichant. Il est question de nazisme encore un peu,
oui,
non?
Oui. Sinon, il y a plein de gens aussi qui nous réclament un film, un blockbuster là.
Ah ouais?
Qui s'appelle Civil War.
Ok, bah pourquoi pas, oui, oui. Oui, oui, on va réfléchir. Moi, j'avais une autre idée aussi, mais on verra.
Ouais. Oui. Puis sinon, il y a un Michel Franco qui se profile.
Oui, mais plus tard, il sort le 21 mai, je crois.
Ouais.
Tu penses, j'ai déjà la date.
C'est pas le 27?
Ah, peut-être c'est le 27. Tu vois, comme quoi, je suis pas aussi amoureux de Franco que toi. Oui, puis celui-là, de toute façon, on y coupera pas.
Non.
Bah oui, je l'ai vu d'ailleurs.
Non.
Mais oui, je te l'ai dit.
Le mec,
tu m'écoutes pas. Au début, dans notre couple, tu m'écoutais beaucoup, et puis peu à peu.
Alors?
Bah, c'est du Michel Franco, quoi.
Allez, salut à tous. Salut François.
Salut.